Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bienvenue sur BFM Business, bienvenue dans Tech & Co et bienvenue dans vos deux heures de tech quotidienne du lundi au jeudi. 20h, 22h, radio, télé, les podcasts et les replays. Merci d'être là. Avec au sommaire pour ce dernier Tech & Co de la semaine, eh bien on va revenir à cet événement qui s'est déroulé hier, présenté par Elon Musk, l'Investor Day de Tesla. Julien Bonnet viendra nous faire un petit résumé. C'était pas l'Investor Day de l'année, hein, franchement, mais on y reviendra. On évoquera aussi la tech au service de la santé avec une petite sélection de start-up que nous avons choisi pour vous. Et puis comme nous sommes jeudi, ce sera le grand débrief de l'actu tech. On reviendra sur Meta, sur Twitter, sur aussi les tourments de TikTok avec nos experts qui seront là, 21h, 22h, vous le savez, comme chaque jeudi, c'est le grand débrief de l'actu tech. Merci d'être avec nous, bienvenue, c'est parti pour Tech & Co.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Évidemment, Tech & Co, pour débuter, c'est toujours l'actualité tech de ce jour et c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors Frédéric, dans l'actu, on va parler réseaux sociaux. Une info qui vient de tomber et on voulait absolument vous en parler ce soir. C'est l'Assemblée nationale qui vote, écoutez bien parce que c'est quand même un événement, un accord parental obligatoire pour les mineurs de moins de 15 ans.
Oui, oui, c'est une loi très importante, c'est-à-dire qui va concerner évidemment énormément de gens en France et d'utilisateurs. Alors c'est une loi qui a fait un consensus, ça c'est une proposition de loi de la part d'un député Horizon, Laurent Marcangeli. Elle a été votée à une large, très large majorité. On n'avait plus vu une Assemblée nationale réunir un tel consensus à 82 voix contre 2, donc votée en première lecture. Alors qu'est-ce que dit la loi? Eh bien, elle instaure un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans qui voudraient s'inscrire sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou autre. Donc, dorénavant, eh bien, une fois qu'elle sera publiée au journal officiel, cette loi, les moins de 15 ans ne pourront pas s'inscrire sans cet accord parental. Alors, ça instaure finalement une majorité numérique à 15 ans. Alors, il faut savoir que 15 ans, ça existait déjà. C'était considéré déjà comme la majorité numérique. Hein. C'est la CNIL qui en avait décidé, et puis une loi a été votée.
Même si on pouvait s'inscrire sur les réseaux sociaux,
exactement,
plutôt plus jeune.
Il y avait un peu un vide juridique. C'est-à-dire 15 ans, c'était l'âge à partir duquel on considère que les données personnelles appartiennent à la personne,
l'individu,
et non aux tuteurs légaux. Sauf que les réseaux sociaux et les sites web, considéraient qu'il y avait un peu un vide juridique. D'accord, certes, leurs données leur appartiennent, mais s'ils ont envie de s'inscrire avant, ils peuvent le faire juste à partir de 13 ans théoriquement, mais il n'y avait même pas de vérification, on pouvait avoir l'âge de 10 ans et s'inscrire. Donc là, dorénavant, cette majorité numérique, elle va avoir force de loi, cette majorité numérique à 15 ans. Toute la question est de savoir comment on va le faire vérifier, comment on va faire en sorte que les moins de 15 ans qui voudront s'inscrire aient l'accord des tuteurs légaux.
Parce que si c'est la même vérification que sur TikTok,
voilà, s'il suffit de cliquer, est-ce que j'ai
plus 15 ans ?
Oui, voilà. A priori, donc, ce ne serait pas ça. Et là, on en revient à une autre loi, une autre proposition de loi du gouvernement qui va mettre en place, qui va tester dès le mois de mars. Donc, on peut considérer que cette majorité numérique de 15 ans, elle va faire appel à ces technologies-là. Un système donc de vérification d'âge en double anonymat, ça va être testé sur les sites adultes, les sites pornographiques, et donc on peut considérer que ce système de vérification par un tiers, par un site tiers, que ce soit un site d'opérateur, Orange, SFR ou autre, on peut considérer que c'est la technologie qui va être utilisée pour bien vérifier que les moins de 15 ans ont bien l'accord parental pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est quand même une loi très importante.
C'est une loi très importante,
à l'Assemblée nationale.
C'est clair. Espérons que ça évite toutes ces dérives que apportent les réseaux sociaux pour les plus jeunes enfants. Dans l'actualité aussi, Frédéric, c'est Frankie Zapata, notre star volante, en quelque sorte.
Oui, qui revient.
Qui s'intéresse à un nouveau mode de locomotion qui s'appelle l'air scooter.
Oui, alors on connaissait le flyboard, une planche qui permettait de voler quelques centimètres de l'eau. On avait eu le jet racer, on avait eu la version aérienne d'abord, on se souvient le 14 juillet 2019, qui avait survolé les Champs-Élysées.
Si vous êtes avec nous à la télé, on le voit d'ailleurs,
voilà,
c'est impressionnant.
On se souvient lors du défilé devant le gouvernement et le président Macron.
Ça fait Iron Man un peu.
On avait eu le jet racer, c'est une voiture volante qui avait été présentée l'année dernière, et là donc ça va être le air scooter qui va être dévoilé dans quelques jours. Alors, le air scooter, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle un VTOL, c'est-à-dire un aéronef individuel à décollage vertical, ce qu'on appelle communément un taxi volant. Donc, ce air scooter va être dévoilé dans les jours qui viennent. Donc, il sera composé de 8 moteurs électriques, 4 moteurs thermiques, qui permettra de voler à quand même 3 à 4000 mètres d'altitude et à 100 km/h. Donc oui, ce sera très très haut. Il va falloir s'accrocher, hein, ceux qui ont le vertige. Enfin, moi, par exemple, je risque de ne pas le prendre. Voilà, donc c'est un taxi.
C'est dommage parce que je voulais que tu le testes pour Tech & Co, Frédéric. Tu pourrais faire un effort quand même.
Je le testerai à l'arrêt, et puis dès qu'il montera à plus de 2 mètres, je laisserai quelqu'un d'autre. Donc, il sera commercialisé courant 2024. Alors, à quel prix? Ce sera commercialisé certainement dans un premier temps à des professionnels. L'ambition est d'en vendre 1000 par an. Il sera utilisé certainement aussi dans des zones touristiques pour aller d'un point A à un point B. La petite différence avec les hélicoptères de type volocoptère, hein, qui sont d'autres types de taxis volants, oui, c'est qu'il ne sera pas totalement autonome. Il sera semi-automatique, c'est-à-dire qu'on pourra prendre le contrôle pour le piloter pour plus de sensations. Hein. C'est un petit peu le principe de tous les engins de Frankie Zapata. Alors, sur les sites touristiques, ils ont donné des prix. Il va falloir quand même dépenser pas mal pour pouvoir tester cet air scooter. On aura d'abord une petite formation sur un simulateur. Et après, pour s'offrir un vol, ça devrait coûter entre 300 et 400 dollars de l'heure, quand même.
D'accord. Ah ouais.
Voilà, c'est pour une clientèle fortunée.
On n'a pas de prix à l'achat.
Sensation forte, on n'a pas de prix à l'achat. Ce sera réservé aux professionnels. On n'a pas de photo d'ailleurs. Il aura la forme apparemment d'une bulle transparente. Reste la question aussi de la réglementation.
Bien
en
sûr.
France, il n'y a aucune réglementation. Il y a quelques tests qui sont faits, mais au cas par cas. A priori, c'est aux États-Unis que l'air scooter devrait prendre son envol. Là-bas, les véhicules volants de moins de 115 kg sont autorisés à voler. A priori, donc, c'est en Arizona que le air scooter du français Frankie Zapata devrait décoller l'année prochaine. Voilà, on attend en tout cas, on pense que la réglementation devrait évoluer en France dans les prochains mois.
Oui, c'est quand même dommage qu'une invention d'un inventeur français ne puisse voler qu'en premier lieu aux US.
En tout cas, il sera fabriqué en France, oui, à Villeneuve-les-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône.
C'est pas très loin de chez toi, ça, Adrien.
Pas très loin de chez moi, exactement, oui.
Tu pourras tester. Tu vois,
je pourrais y aller.
Franchement, t'as toutes les bonnes options pour tester.
Châteauneuf-les-Martigues, excusez-moi.
Châteauneuf-les-Martigues. Fais attention.
Côté de Martigues, dans le 13.
Quand tu vas revenir là-bas, ça va être dur. Dans l'actualité aussi, une annonce qui a fait plonger STMicro, une annonce de Tesla qui a mal été accueillie. Donc,
il n'y a pas eu beaucoup d'annonces de Tesla.
Non, on en parle dans quelques instants avec Julien Bonnet qui nous rejoint.
La conférence de presse d'Elon Musk a été très décevante, très longue et très ennuyeuse, mais il a quand même réussi à faire dégringoler le titre de l'entreprise franco-italienne STMicro Électronique.
Oui, c'est pas bon pour nous.
Non, c'est pas bon pour nous. Alors, le titre a un peu redécollé, mais c'est vrai qu'en début de séance, il a perdu 5%. C'est la plus forte baisse du CAC 40 ce matin. Alors, pourquoi? Parce que le directeur de l'ingénierie est monté sur scène, Colin Campbell, et a annoncé que le groupe allait couper dans ses approvisionnements en carbure de silicium. Alors, le carbure de silicium, qu'est-ce que c'est? C'est un semi-conducteur qui est présent dans les véhicules Tesla, dans l'ensemble des véhicules électriques, et qui permet d'améliorer la performance des batteries, enfin, qui permet d'améliorer le transfert d'énergie entre les batteries et le moteur et d'avoir de meilleurs rendements. Ce carbure de silicium, le champion du monde de ce semi-conducteur, c'est le français, le franco-italien STMicro Électronique.
Et oui.
Il a réalisé 700 millions de dollars de revenus grâce à ce semi-conducteur. Donc fatalement, ça n'a pas plu aux investisseurs. Le fait que Tesla veuille redesigner un module pour avoir un module moins cher, parce que Tesla le considère comme trop cher. On sait que Tesla travaille aussi sur des véhicules à moins de 30 000 dollars et il doit serrer tous les coups et tous les boulons.
On en parlera tout à l'heure, mais Elon Musk a annoncé qu'il voulait baisser de 50% le coût en fait, de construction d'une Tesla dans les années qui viennent.
Oui, c'est ça, pour la rendre, pour davantage démocratiser la technologie. Et donc, ça devrait passer aussi par d'autres technologies que ce carbure de silicium trop coûteux à son goût. STMicro Électronique a donc chuté de 5%. Alors, j'ai regardé en clôture de bourse, il a un peu remonté, mais il est quand même en baisse toujours.
On est à moins 3,24% là actuellement.
Exactement. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est en tout cas ce que nous disent les analystes. On ne sait pas si Tesla va faire appel à STMicro Électronique ou pas. Peut-être que l'entreprise sera consultée pour redesigner cette puce qui est présente.
Et puis, STMicro fait plein d'autres choses.
Oui.
Donc, voilà.
C'est vraiment un marché très porteur.
C'est un marché très porteur.
1 milliard de dollars de ventes pour ce carbure de silicium en 2023.
Dans l'actualité aussi, si vous souhaitez changer la batterie de votre iPhone, eh bien, attendez-vous à une petite augmentation, Frédéric.
Ah, il fallait le faire avant aujourd'hui. Hein. Si vous avez une batterie qui était un peu faiblarde comme moi, il fallait pas attendre ce 1er mars parce que tous les prix ont augmenté. Hein. On sait que Apple, bah, comme tous les constructeurs, est touché par l'inflation. Donc, les iPhones ont un peu augmenté. Eh bien, les composants ont fortement augmenté. C'est plus 30%. Alors, on va donner quelques exemples de prix hein, de batteries. Alors on parle des prix des batteries que vous devrez payer si vous allez dans un App Store
voilà.
Officiel d'Apple. On va voir qu'on pourra en avoir des moins chers, mais sur l'iPhone 8,
ce sont des produits officiels, on va
voilà,
dire.
Ce sont les produits officiels faits par les techniciens d'Apple. Sur l'iPhone 8, on va passer de 55 à 79 € plus 24 €.
Ah oui.
Sur les modèles qui vont du 11 au 13, eh bien, on va passer à 119 €. C'est le prix du 14. Alors, le 14 ne bouge pas pour l'actuel, voilà. Par contre, pour les 11, 12, 13 X, on va passer à 99 € au lieu de 75 auparavant. Voilà. Alors, ces tarifs vont aussi augmenter pour les ordinateurs, les MacBook Air. On va passer à 185 €. Ça commence à faire cher, hein, 36 € de plus que les prix avant ce 1er mars. Les iPads, eh bien, une hausse de 40 € là aussi. On va passer à 149 €. Voilà, comme tu le disais, ce sont les prix officiels dans les App Store. On peut les payer moins cher en se tournant vers des réparateurs tiers. On rappelle qu'avec l'Apple Care Plus, la garantie, eh bien, c'est fait gratuitement par Apple. Mais bon, l'Apple Care Plus n'est pas gratuit, il faut le payer tous les mois.
Oui, il faut le payer et c'est pas donné.
C'est pas donné, non.
Faites attention, hein, lorsque vous décidez de changer la batterie de votre smartphone, on vous conseille d'aller vers les filières officielles. Parce que, voilà, c'est vrai qu'acheter une batterie dans une boutique, dans le coin de la rue, ça peut être séduisant, elle coûte moins cher. Mais souvent, ce sont des batteries de moins bonne qualité.
En tout cas, vous pouvez aller dans vos réglages, si vous possédez un iPhone, pour voir à quel niveau est votre batterie. Hein, vous indiquera la capacité totale, si elle est diminuée ou pas. Dans vos menus, c'est assez simple à trouver.
Merci beaucoup Frédéric pour le petit tips final en plus.
Exactement, le petit tips tech.
Voilà, Frédéric Bianchi, journaliste donc à BFM Business pour l'actu de ce jeudi 2 mars 2023. Vous restez avec nous, on a évoqué Elon Musk, on a évoqué Tesla. Hier s'est déroulée une grande conférence de plusieurs heures. On attendait beaucoup d'informations nouvelles et d'indices concernant le futur de Tesla. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ? Julien Bonnet, journaliste spécialisé auto à BFM Business, va tout nous raconter dans un instant. Merci d'être là sur BFM Business. C'est Tech & Co. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, Tech & Co chaque soir, 20h, 22h sur BFM Business. Julien Bonnet nous a rejoint. Bonsoir Julien.
Bonsoir François.
Journaliste à BFM Business. Julien s'est couché très tard hier, ça ne se voit pas. Hein. Il a une mine parfaite parce que voilà, il est en pleine forme, en pleine santé. Tu t'es couché très tard car tu as assisté à cette longue conférence Investors Day donc d'Elon Musk qui devait revenir un petit peu sur la stratégie de Tesla.
Voilà,
hein.
Ouais.
Alors évidemment, il y avait pas mal d'informations financières, mais on espérait quand même avoir quelques petites informations croustillantes concernant le futur de Tesla.
C'est ça, on avait beaucoup d'attentes, notamment sur des produits, des nouveaux services, etc. Finalement, rien du tout. Hein. Donc ça a commencé à environ 22h30 en France, pour s'achever vers 1h du matin. Après, on a eu quelques questions avec la salle, mais c'était voilà un public d'investisseurs, d'analystes. Et donc, c'est vrai que ça a été une présentation globale de l'entreprise. Alors, c'était pas inintéressant. Il y avait pas mal de points qui ont été évoqués. Pour ceux qui connaissent bien Tesla, ça permettait d'avoir quelques détails un peu sur le fonctionnement de l'entreprise. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'était assez intéressant. Mais finalement, là où on s'attendait peut-être à avoir des produits, à avoir quelque chose, on sait qu'Elon Musk est le roi un peu des effets d'annonce. Hein. D'ailleurs, on lui reproche souvent d'annoncer beaucoup de choses et de pas tout réaliser en temps et en heure. Bah là, finalement, on risque pas d'être déçu parce qu'il y a pas grand-chose de promis, à part bien sûr les grandes lignes de la stratégie. Finalement, là, c'est dessiner l'avenir à moyen terme de Tesla, donc oui. Horizon 2030, avec un projet très global. Hein, c'est finalement comment passer à une économie, à un monde, à une civilisation. Il a même dit une civilisation 100% énergie renouvelable. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est souvent une introduction dans les keynotes de Tesla de dire le monde aujourd'hui c'est horrible, on est envahi par les énergies fossiles et la pollution va tous nous tuer. Or Tesla, c'est la solution avec la voiture électrique et les solutions de batterie associées. Là, finalement, c'est un propos introductif très long pour dire comment il fallait que toute l'économie bascule sur le renouvelable, avec des points qui des fois concernent pas du tout Tesla, parce qu'il a évoqué l'hydrogène. On sait que Elon Musk est pas forcément fan de l'hydrogène, en tout cas appliqué aux véhicules. Là, il l'a placé quand même dans ce débat global sur cet objectif, on va dire, réaliser les investissements nécessaires au niveau mondial pour 2030 et être en phase pour un monde 100% renouvelable 2050. Mmh. Donc, pas inintéressant, mais ça manquait peut-être d'éléments concrets, voilà, dont on a l'habitude dans les fameuses keynotes.
Alors, on va revenir au vieux serpent de mer, la fameuse Model 2. Voilà. Malgré tout, il y a eu cette annonce d'usine
qui avait été
au Mexique.
Alors, préannoncé par les autorités mexicaines, voilà, exactement la veille, donc je sais pas si c'était...
Donc il l'a officialisé.
Voilà, ça. Complètement. Donc, une troisième usine dans le monde, hein, donc c'est très important, bien sûr, dans ce plan de Tesla. On peut rappeler aussi, donc, pour recentrer peut-être sur Tesla, l'objectif, c'est que Tesla produise 20 millions de voitures en 2030. Et donc c'est juste énorme, parce qu'aujourd'hui le numéro 1 mondial de l'automobile, Toyota, il en assemble 10 millions par an.
Je crois que Tesla c'est 1 800 000 hein, en 2022.
C'était 1 300 000 à peu près.
Après
il faudrait multiplier par 15.
C'est peut-être en 2023 alors 1
800 000. Oui, on serait pratiquement à 2 millions. Il y a des analystes qui pensent que Tesla arrivera
à 2 millions,
à la barre des 2 millions cette année. Donc on voit bien sûr la marque a monté en puissance ces dernières années, donc c'est pas étonnant. Mais c'est vrai que là c'est un changement de dimension. Même aucun constructeur automobile encore dans l'histoire n'a assemblé autant de véhicules en une année. Donc on a du mal, vu les circonstances du moment, à prévoir ce que sera le monde en 2030, mais c'est vrai que ce qui a manqué dans la présentation de Tesla, parce qu'on a vu tous les dirigeants défiler, donc ça c'était pas aussi inintéressant, hein. En général Elon Musk attire toute la lumière et
prend toute la lumière, c'est
plus
vrai,
au moins un ou deux dirigeants s'exprimer à côté de lui pour une partie plus spécifique. Là c'est vrai que c'était un long défilé, parce qu'on avait 3h30 de conférence, donc il y avait le temps de voir défiler ces personnes, et c'est vrai qu'ils ont quand même donné, on va dire, des moyens d'arriver à ces 20 millions de véhicules. Ils veulent notamment développer une nouvelle plateforme, celle pour le véhicule à 5 000 $, qui avait été annoncée en septembre 2020 lors d'un Battery Day en plein Covid. Donc, si vous vous souvenez, c'était Elon Musk qui se faisait applaudir par des klaxons de voiture parce que
les gens étaient en confinés dans leur véhicule.
C'était un public de Tesla, c'était assez original comme keynote. Tout ça pour dire que ce véhicule à 25 000 $, on l'attend depuis 2020. Tesla avait commencé à évoquer des choses assez concrètes en 2020 sur l'architecture de la plateforme, etc.
Mais c'est étonnant parce que depuis 2020, plus aucune information n'a fuité concernant ce véhicule.
Oui, et en plus, on peut rappeler que le Model 2, c'est un peu son surnom donné par les médias, le grand public. Moi, hier, pendant le live, je voyais le chat à côté, donc sur YouTube, avec tout le monde qui demandait, mais est-ce qu'il a parlé de la Model 2
Donc c'était assez J'ai raté la Model 2.
On voyait des gens de partout dans le monde, donc on voyait des Américains comme des gens européens qui demandaient des nouvelles. Et là, c'est vrai que c'est un peu la déception, surtout qu'on sent bien que c'est aujourd'hui l'attente principale du public, c'est d'avoir des nouvelles de ce véhicule. Et c'est vrai que même si Tesla a des projets en cours, on peut rappeler par exemple le Roadster, le nouveau Roadster, donc le véhicule qui fait rêver pas mal de monde avec des performances incroyables. J'ai vérifié, il a été annoncé pour la première fois en 2017. Et il était prévu pour 2020. Donc c'est sûr qu'il y a eu le Covid, ça peut être une excuse suffisante pour avoir du retard. Mais là c'est vrai que on aurait aimé peut-être avoir du retard. Et c'est peut-être aussi dans la stratégie de communication de Tesla de pas commencer à annoncer trop de choses alors qu'il y a des projets en cours. Moi c'est un peu mon analyse, c'est de dire que ça aurait été compliqué peut-être d'annoncer une Model 2 même pendant 3 ans en présentant quelque chose de pas vraiment avancé, alors qu'il y a le Roadster, le Semi, on a encore des doutes.
Le Model 3, il avait annoncé bien en avance, bien avant que la voiture ne sorte.
C'est vrai, ça lui avait été
au moins 2 ans.
Oui, c'est ça.
Il avait ouvert les précommandes tout de suite.
Exactement.
Et puis la voiture avait accusé des retards.
On attend aussi ce mécanisme-là sur la Model 2, comment elle s'appellera. Mais sur ce modèle, en tout cas, à 25 000 $, peut-être 30 000 € par chez nous avec les effets de différents euros-dollars. Mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre même juste la plateforme ou même un...
Rien de neuf sur les chargeurs, par exemple. Il a rien balancé là-dessus.
Alors, s'il y a une petite subtilité qui est assez drôle, c'est que la responsable donc de la charge chez Tesla a annoncé l'arrivée de la version 4 des superchargeurs qui démarrerait en Europe. Donc là, je me suis un peu réveillé de ma conférence.
Réveillé, bien sûr.
En me disant, ah ça y est, je tiens.
Parce que tu commençais à t'endormir sur ton laptop.
Essentielle. Non, c'était quand même... je suis resté éveillé. Mais elle l'a annoncé, donc lancé en Europe. Et finalement, elle-même précisait que c'était pas vraiment une révolution en termes de puissance de charge, etc. C'est juste que le câble allait être plus long, donc ça allait être pratique pour recharger tout type de véhicule. Alors c'est vrai que ça, on peut en rire, hein, parce que c'était le but d'intervenir là-dessus. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est beaucoup plus intéressant, c'est que Tesla est en train d'ouvrir complètement son réseau de superchargeurs.
C'est vrai.
Donc nous, en Europe, on le connaît
par obligation, pas par volonté.
Oui, voilà. Donc c'est un peu des deux, je pense. Mm-hmm. Parce qu'il y a une obligation, et il y a aussi une volonté de Tesla de transformer ça en modèle économique intéressant,
en business.
Voilà, etc. Et donc on a découvert ça en Europe il y a maintenant un peu plus d'un an avec le programme pilote, notamment lancé en France. Et là, ce qui est marrant, c'est que ça arrive aux États-Unis parce que c'est une condition posée par les autorités américaines pour que Tesla continue à profiter de subventions, notamment.
Voilà. Donc, on va dire rendez-vous mitigé hein, pour cette Investor Day. Espérons que nous aurons d'ici la fin de l'année 2023 d'autres rendez-vous pour avoir des choses plus croustillantes à vous raconter concernant Tesla. Et puis Elon Musk a plein de choses à faire hein, entre Twitter, Tesla, SpaceX. Il a quand même
un agenda un peu chargé. D'ailleurs, comme éteint, mais je pense que c'était aussi une volonté de se présenter comme plus sage, plus sérieux.
Oui, c'est vrai que c'était un peu moins fou qu'on avait l'habitude d'avoir.
Exactement.
Merci beaucoup, Julien, pour ce résumé de cet Investor Day. J'accueille maintenant Kenneth Schlenker, qui est là. Bonsoir, Kenneth.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG d'Opal. Et avec vous, on va parler de la journée internationale de la déconnexion qui se déroule samedi, Julien. J'espère que samedi, tu éteindras ton téléphone. En tout cas, tu t'en serviras un petit peu moins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un spécialiste de cette déconnexion, en quelque sorte, puisque via votre appli, vous proposez de gérer notre temps d'écran, c'est ça ?
Exactement. Donc, on a déjà beaucoup parlé de smartphone, je crois, ce soir, dans les éditions précédentes. Mais voilà, il faut savoir que les Français passent beaucoup de temps connectés, passent beaucoup de temps sur leur mobile. En moyenne, c'est 3h30 par jour, ce qui correspond à 21% du temps éveillé. Et si on projette ça sur une vie, c'est 15 ans passé sur un téléphone portable.
Ça commence à faire beaucoup. Là, 15 ans comme ça, c'est une claque, hein, quand vous nous dites le chiffre comme ça.
Voilà, si on rajoute la télévision, l'ordinateur et les autres.
Et ça, c'est une moyenne.
Ça, c'est une moyenne, effectivement.
C'est une moyenne. Il y a des gens qui sont beaucoup moins et puis il y en a qui sont beaucoup plus. Je lisais un article, je crois, sur le site de Tech & Co, justement, où il y avait des jeunes qui restaient 12 heures sur TikTok par jour.
Ouais, ça existe, effectivement.
Incroyable.
On en voit. Et donc, le problème, c'est que les études commencent à montrer qu'il y a beaucoup d'effets nocifs de la surconsommation des écrans, évidemment, certains sur les troubles du sommeil, sur la productivité, sur également la santé mentale. Ouais. Et donc, j'ai décidé en 2020 de créer une application qui s'appelle Opal. Et Opal, c'est effectivement une appli de gestion du temps d'écran qui vous permet d'adopter une manière saine de consommer la technologie. Parce qu'en fait, je crois que la technologie nous permet de faire de grandes choses et est absolument incroyable, mais qu'on a besoin d'aide pour gérer notre temps sur les écrans. Et donc c'est dans cette perspective-là
Avez créé cette application, qui est aussi un plugin sur Chrome, par exemple, hein, je crois. Enfin, vous avez développé ça de manière, on va dire, générale. C'est à la fois sur Android et iOS.
Alors c'est uniquement iOS et Chrome pour l'instant. Android viendra un peu plus tard. Et en fait, Opal aujourd'hui, c'est la première application mondiale de gestion du temps d'écran. On a 500 000 membres un peu partout dans le monde. C'est 50 millions d'heures déconnectées depuis notre lancement en 2021. Et c'est des utilisateurs qui passent en moyenne, donc qui économisent 2 heures par jour de temps d'écran et qui sont plus productifs, en tout cas qui sont moins distraits et qui ont une meilleure expérience en termes de bien-être.
Comment ça marche, Kenneth ? Parce que le temps d'écran, je peux le gérer moi-même si j'ai un peu de volonté. Hein. Je sors de ma torpeur de mon fil Insta ou TikTok et puis je pose mon téléphone et je passe à autre chose.
Oui, en fait.
Là, comment faites-vous pour qu'on puisse laisser notre téléphone ?
Donc, je pense qu'on
n'est pas facile d'ailleurs. Hein.
Je pense qu'on a besoin d'aide, en fait. Je pense que les développeurs d'applications sont très forts pour créer des produits très addictifs et en plus, c'est des produits qui sont très utiles. C'est-à-dire que j'utilise tous les jours mon téléphone pour des choses qui sont très utiles. Donc, en fait, nous, qu'on essaye de faire, ce qu'on apporte, c'est la prise de conscience pour aider à comprendre en fait la manière dont on utilise ces technologies et pour nous aider à prendre une action pour, par exemple, décider de bloquer certaines applications à certains moments de la journée quand vous travaillez. Est-ce que vous avez besoin d'aller sur TikTok ou regarder YouTube pour mettre des limites de temps, donc décider à quel moment de la journée et combien de temps je veux passer sur ces différents
écrans. Kenneth, je vous coupe. Merci. Je suis sur mon iPhone. Je lance Twitter ou TikTok. Ouais. Si j'ai Opal installé et que je l'ai configuré correctement, je ne pourrais pas me servir de ces applications.
Voilà, par exemple, vous allez voir,
même si je les lance.
Voilà, donc si vous avez décidé que pendant l'émission, vous ne voulez pas accéder sur Twitter, vous avez paramétré ça de cette manière-là, quand vous allez lancer l'application, vous allez voir un petit écran Opal qui va vous dire, voilà, vous ne pouvez pas accéder à Opal aujourd'hui. En fonction des paramètres que vous allez utiliser, vous allez soit pouvoir les bloquer de manière complètement, disons, sans moyen de le contourner. Donc, on ne va pas vous laisser le faire. Ou alors, il y a un paramètre qui vous permet de choisir d'utiliser, mais en déclarant une intention et en déclarant le temps que vous allez y passer. Donc, par exemple, je vais regarder Twitter pour 2 minutes pour regarder les actualités Tesla.
Et au bout de 2 minutes, ça se coupera.
Et au bout de 2 minutes, ça va se couper automatiquement, effectivement. Donc, c'est vraiment ramener l'intentionnalité dans
l'utilisation. C'est pas un peu anxiogène, quand même, le fait de se retrouver comme ça coupé de ce qu'on est en train de regarder ou d'apprécier?
En fait, je pense que ce qui est anxiogène, c'est le fait d'être connecté en permanence. Donc, l'intentionnalité fonctionne dans le sens où si on déclare cette intention, on arrive à changer nos comportements, on arrive à adopter des comportements plus sains. C'est-à-dire, dans cette perspective-là qu'on a décidé de s'allier avec l'association qui est à l'origine de la Journée internationale de la déconnexion, pour revenir au sujet, donc commence demain soir à la tombée du soleil et qui sera jusqu'à samedi soir en fin de journée. Et l'objectif, c'est, on l'amène pour la première fois en France, pour encourager les Françaises et les Français à faire l'expérience de ce que c'est que d'être déconnecté pendant 24 heures. Et l'objectif, c'est, après cette pause, de pouvoir adopter des comportements plus sains et des habitudes plus saines.
Kenneth, pourquoi vous faites ça ?
Pourquoi je fais ça moi personnellement ? Parce qu'en fait,
pourquoi vous lancez une appli comme ça ? Il y a un modèle économique derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Il y a un modèle économique, donc il y a un abonnement premium, effectivement. Et je pense qu'en fait, dans 10 ans, on sera aussi conscient de notre temps d'écran qu'on est conscient aujourd'hui de nos habitudes alimentaires. Je pense que c'est le genre de transformation qu'on est en train de...
En fait, on va vers une hygiène numérique qu'on ne maîtrise pas encore, finalement.
Pour l'instant, on est en tout début. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça. On en a encore un stade où nos utilisateurs, nos membres, donc il y a 500 000 personnes qui en sont conscients, mais ça commence à devenir de plus en plus important. Et en fait, je pense que la manière que les habitudes alimentaires, 5 fruits et légumes par jour, on va se poser la question de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, quel choix est-ce que je veux faire pour ma santé. Donc, c'est pas tout bon ou tout mauvais. Je suis pas du tout dogmatique là-dessus. Je pense juste qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin d'un outil pour nous permettre d'adopter des habitudes saines.
Et ça coûte combien ?
Donc la version gratuite est accessible aujourd'hui pour l'utiliser, et la version payante, c'est un abonnement annuel de 99 euros par an ou un abonnement mensuel qui coupe l'abonnement en 12. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez participer à la Journée internationale des déconnexions dès demain, vous pouvez d'ailleurs le faire donc gratuitement à travers notre application, parce que maintenant vous allez vous inscrire, et à partir donc de demain soir, vos applications les plus distrayantes vont être bloquées automatiquement. Vous allez pouvoir voir les personnes qui y participent aussi, donc il y a un effet aussi social bénéfique de voir d'autres personnes qui le font. Il y a plusieurs centaines de personnes qui y sont déjà inscrites. L'idée, c'est de faire cette expérience, de se rappeler de ce que c'est qu'être déconnecté pour pouvoir ensuite adopter des habitudes plus saines.
Merci beaucoup, Kenneth Schlenker, donc PDG d'Opal, avec cette application à télécharger à la fois sur iOS et sur Chrome aussi.
C'est ça. Exactement.
Merci beaucoup. Cette journée de la déconnexion, Julien, tu es prêt ?
Allez.
Pour samedi, on tente le coup. Ça va être dur, hein. Vous restez avec nous, l'Info Éco dans un instant, la suite de Tech & Co dans quelques minutes. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà un sujet qui ne s'arrête jamais, qui est inépuisable, c'est la tech au service de la santé. Je vous propose deux belles boîtes qui révolutionnent à leur manière en fait la santé, ou vont la révolutionner, avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Fabien Ouattrelo.
Bonsoir.
Est-ce qu'on prononce le wa ou le va?
On peut prononcer les deux.
Bon, voilà, donc ça va, je ne me suis pas trompé. Vous êtes le cofondateur de N-Suite, créé en juillet 2020. Vous êtes dans les Hauts-de-France.
Tout à fait.
Si mes informations sont bonnes.
À Lille.
Vous avez démarré votre activité il y a un petit peu plus d'un an. Et on parle avec vous de téléréadaptation cardiaque. On va rentrer dans les détails dans un instant. Fabien et Gérard Lesseur est avec nous. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir.
Alors, vous, c'est... Voilà, vous êtes à l'opposé des Hauts-de-France, hein, puisque vous êtes à Marseille.
Tout à
fait. Avec donc Indinov, dont vous êtes le président et fondateur, qui est une ceinture airbag intelligente pour les personnes âgées. On va rentrer là aussi dans les détails dans un instant. Gérard, vous allez tout nous expliquer. Mais Fabien, je vous donne la parole à vous. Je le disais, vous avez créé une solution de téléréadaptation cardiaque qui s'adresse, comme son nom l'indique, à toutes les personnes qui ont... ou eu des insuffisances cardiaques et qui ont eu des opérations et qui doivent être monitorés, c'est ça ? Et grâce à vous, ils peuvent le faire à domicile.
C'est ça. En fait, on s'adresse à l'ensemble des patients qui ont eu une chirurgie cardiaque, un problème cardiaque, un infarctus, qui normalement devraient faire un soin de réadaptation en établissement de santé. Mais les chiffres sont terribles. C'est 70% de ces patients qui n'accèdent pas à la réadaptation parce que les établissements sont saturés, parce que phénomène de déserts médicaux. Et grâce à notre solution, ils peuvent faire leurs soins de réadaptation à la maison, grâce au logiciel qui est un logiciel dispositif médical qui est très sérieux qu'on a conçu et ça permet en fait d'augmenter cette capacité d'accueil de patients. Ça permet aux patients de reprendre le travail un petit peu plus rapidement, mais de manière générale d'éviter des récidives, des hospitalisations ou la mort.
En gros, c'est un peu la rééducation après une opération.
Exactement.
Finalement, hein, c'est une rééducation du cœur, enfin en tout cas du muscle cardiaque, etc.
Tout à fait.
Tout ça est très très suivi, hein, puisque on peut pas faire n'importe quoi. On va pas rééduquer un cœur de la même manière qu'on rééduque un genou, hein, ou un coude. C'est pas pareil. Quel type de dispositif mettez-vous à disposition des patients justement, alors, qui restent chez eux, hein, c'est ça la force. Hein.
Tout à fait. Ouais. Donc les patients téléchargent une application qu'on a conçue. Donc sur leur téléphone,
ouais.
On les équipe d'un capteur de fréquence cardiaque, une ceinture thoracique, qui va relever durant leur période de réadaptation ces fréquences. Et nous, nos algorithmes vont analyser ces fréquences et alerter des médecins de l'autre côté si jamais
il y a un problème.
Et on livre aussi des vélos à domicile pour les patients, du matériel de réadaptation via des partenaires pour qu'ils puissent faire leurs soins dans de bonnes conditions.
Oui, parce qu'en général, cette rééducation cardiaque passe par un peu de sport. Hein.
Exactement.
Toujours, évidemment, très, très suivi. Et donc, cette ceinture cardiaque est équivalente à celle qu'on peut trouver dans les magasins de sport quand on fait de la course à pied, par exemple.
Voilà, alors c'est la force de notre dispositif. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de s'adapter à des capteurs du marché, ce qui permet d'abaisser un petit peu le coût, hein, parce qu'on est sur une solution qui est pré-remboursée par l'assurance maladie aujourd'hui, qui est néanmoins testée sur des bancs d'essai en CHU avant d'être délivrée sur les patients.
Vous dites qu'il y a une saturation des établissements de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sors d'une chirurgie cardiaque, je peux ne pas trouver d'établissement pour faire cette rééducation.
Oui, tout à fait. En fait, on va vous dire, désolé, monsieur.
Oui, revenez dans 3 mois.
Hein. Ouais, exactement. Revenez dans 3 mois.
Alors que c'est tout de suite qu'il faut le faire.
Il faut le faire tout de suite. Ouais. Les personnes sont prêtes. Alors, psychologiquement, elles sont prêtes. Il y a un protocole d'admission, évidemment, à établir. Mais plus c'est fait tôt, mieux c'est pour la santé du patient.
Alors, levée de fonds de quasiment 2 millions et demi,
c'était
quand ça,
cette levée de fonds ? On a clôturé en fin novembre.
Fin novembre, d'accord. Et vous dites que 300 patients ont eu recours cette année à votre système, Ensuite Cardio, et vous en visez combien pour l'année 2023 ?
Alors, on vise plus de 1000 patients pour cette deuxième année. Donc, d'accord. On a fait une première année aussi de galop d'essai, on est dans le médical, les preuves sont là, maintenant on continue d'accélérer et on a quasiment atteint nos parts de marché prévues pour 2023 sur le mois de février. Donc on est très content, on va pouvoir être encore plus ambitieux.
Juste une petite question sur le déroulé en fait de votre technologie. Vous dites qu'avec donc cette ceinture, en quelque sorte, vous surveillez, on va dire, l'activité cardiaque du patient. Toutes ces informations sont envoyées en temps réel au médecin ou est-ce qu'il y a une latence ? Enfin, c'est un bilan quotidien, oui, qui est envoyé au cardiologue, j'imagine.
Tout à fait, il y a une latence. L'instantanéité n'a pas d'intérêt, médical à proprement dit, ni de sécurité.
Et s'il y a malaise, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut arriver, hein, après une opération, oui. Est-ce que vous le détectez justement avec cet équipement ou pas ?
Alors, dans les faits, déjà, ça n'arrive pas. C'est jamais arrivé chez nous, c'est jamais arrivé ailleurs. On a tout un protocole de vérification avant la séance.
D'accord.
Qui permet d'éviter ce genre de problème. Et le patient est obligé d'avoir une personne à domicile en cas de malaise ou des choses comme ça.
Ah d'accord. Donc
il signe un consentement. C'est très courant quand on a des soins à la maison. On ne doit pas être seul.
Et j'imagine en plus que vous faites faire des économies à la Sécu, non, avec votre service ?
Énormément, parce que un séjour de téléréadaptation comme le nôtre coûte en moyenne 50% moins cher. On évite des coûts de transport, des coûts de structure, des coûts de personnel. Et puis un patient qui est réadapté aura moins de chances de faire une nouvelle hospitalisation, qui coûte en général 30% plus cher que la première. Donc voilà, on a un très bon soutien aujourd'hui des pouvoirs publics, du ministère de la Santé, de manière générale, sur notre...
Après, il faut la motivation du patient. C'est-à-dire que quand il est dans un établissement, on le pousse à s'activer, ça fait partie du jeu. Là, on est à la maison...
Alors on avait cette vraie crainte au démarrage. On s'est dit, mais nos patients...
Est-ce que les gens vont être motivés à faire tout ça ?
Et aujourd'hui, en fait, on est sur des taux d'observance qui sont presque supérieur à ce qui se passe en établissement. Donc on est au-dessus de 80% de, au-dessus de 80%. Et le, c'est tout simplement que le, à travers le dispositif, on a permis aux patients, et grâce aux soignants aussi, de prendre conscience de l'intérêt du soin. C'est très simple pour lui, c'est
d'accord.
Public. Voilà, tout se passe bien.
Merci Fabien.
Merci.
Fabien Ouattrelot, donc cofondateur de N-Suite. Gérard, c'est à nous. Alors aussi un autre dispositif médical, c'est une ceinture.
C'est aussi une ceinture.
Mais qui ne se positionne pas au même endroit. En fait, vous avez créé donc Hippie et Indinov en 2020, à Marseille, je le disais. Et vous êtes à l'origine de cette première ceinture airbag intelligente destinée à protéger les personnes âgées des fractures fémorales, en fait.
Tout à fait.
Qui sont un drame, bien sûr.
Qui sont un drame, qui sont le premier fléau.
Fracture du col du fémur.
Voilà, le premier fléau chez les personnes âgées.
C'est souvent, enfin, l'issue, souvent, à moyen terme ou à long terme, est dramatique.
Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai créé en 2020, on est cofondateur, puisque je suis avec Maurice Kahn, qui est à mes côtés pour développer cette ceinture. Et il est vrai que notre objectif, c'est de sauver des vies et de préserver l'autonomie des personnes âgées chez elles, qu'elles gardent leur indépendance. Et donc, pour se bien vieillir, puisque c'est comme ça qu'on le dit aujourd'hui, nous avons créé cette ceinture airbag connecté Indinov qui permet d'éviter la fracture du col du fémur, comme on vient de le dire, et qui permet aussi d'alerter
Les personnes qui ont eu une chute. Alors, expliquez-nous concrètement. Donc, la personne vit avec cette ceinture.
Oui,
tout à fait. Parce que l'objectif, c'est de l'avoir tout le temps.
C'est de la porter. C'est une ceinture. Je vais vous la montrer pour que déjà vous voyez un petit peu cette ceinture. Elle est toute simple. Hein. C'est une ceinture.
Oui, c'est une ceinture
qui
ressemble à une ceinture.
Qui ressemble à une ceinture.
Un peu plus épaisse peut-être, mais bon, c'est normal.
Légèrement, puisqu'il y a l'airbag dedans. Donc il y a la petite musique comme quoi elle est bien connectée,
armée,
et donc armée. Et donc elle est très simple elle est très légère. Très légère. Au niveau de la taille, on ne la ressent pas. Donc, notre gros travail.
Faites attention au micro derrière parce que vous frottez la ceinture. Oui. Au micro, on vous entend.
Notre gros travail a été l'acceptabilité, la miniaturisation de cette ceinture. Qu'elle ne montre pas
qu'elle
du doigt.
Qu'elle ne soit pas discriminante en quelque
qu'elle
sorte.
Qu'elle ne soit pas discriminante.
Donc, j'installe cette ceinture, je la porte tous les jours. Alors, pas quand je me douche, bien sûr, hein, ce qui est un problème parce que j'imagine que les chutes sont souvent dans des endroits où on fait sa toilette, etc.
Il y a aussi des chutes dans les salles de bain, voilà, mais on ne peut pas être...
Mais on ne pouvait pas être partout, mais admettons, on met la ceinture, je trébuche, je tombe, qu'est-ce qui se passe?
Donc l'airbag s'ouvre, puisque la ceinture est équipée de chaque côté d'un airbag.
Oui, en général, on tombe du côté, d'un côté.
On tombe d'un côté ou de l'autre. Et donc l'airbag s'ouvre du côté que l'on chute et amortit le choc et donc permet d'éviter la fracture du col de fémur. Donc voilà l'enjeu et également cette ceinture qui est finalement bourrée d'algorithmes et d'intelligence artificielle embarquée. Permet, et parce que là il y a eu beaucoup de travail d'ingénieurs sur cette partie software que l'on ne voit pas, mais qui est dedans, permet aujourd'hui également d'alerter les familles, les soignants, les personnes. Il y a 5 numéros qui permettent d'alerter.
C'est-à-dire qu'automatiquement, la ceinture va appeler des numéros en disant « Attention, il y a eu un problème ». Ça veut dire qu'elle est autonome ou elle est connectée au smartphone de la personne ?
Elle est connectée, elle est 4G, elle est indépendante.
Elle est totalement autonome.
Totalement indépendante, il n'y a pas besoin d'agir. La personne chute et a un malaise, la ceinture appelle immédiatement famille ou soignante. Et également, la famille peut avoir aussi l'application, puisque nous avons une application qui vient avec, de façon à pouvoir suivre ses parents, suivre une personne, et donc avoir des informations de ce qui se passe.
C'est une ceinture qui pèse à peu près 500 grammes, trois couleurs, quatre tailles, évidemment. Elle se recharge à l'USB-C parce que, bien sûr, il faut de l'énergie. C'est quoi l'autonomie de cette ceinture, tiens?
L'autonomie,
parce qu'il ne faut pas oublier de la recharger.
Voilà, c'est 3 à 4 jours, mais on demande un rituel de la charger tous les soirs, comme
les soirs. Un peu comme le smartphone. Quand on se couche, on la pose et on la recharge.
Tout à fait.
Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que ce produit existe, fonctionne, va bientôt sortir?
Oui, ce produit, les premières livraisons débuteront mi-avril. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commercialisation. Donc, on engage la commercialisation pour des livraisons mi-avril. Et elle est prête. Elle est, donc, On a pris un peu de retard car on était parti à l'étranger et on a tout rapatrié en France pour fabriquer cette ceinture car elle est dispositif médical, elle est classée CE. D'accord. Et donc on avait besoin d'un produit de qualité.
De qualité,
et donc
bien sûr.
On est revenu en France.
Oui.
Donc voilà, et ça c'est le premier étage de la fusée car il y a un deuxième étage qui est maintenant on va travailler sur le software et on va travailler sur le préventif, le prédictif de tout ce qui est équilibre, motricité des personnes.
Mais parce qu'avec les capteurs, enfin en tout cas toute l'intelligence qu'il y a dans cette ceinture, vous pourrez détecter, peut-être même prédire une future chute grâce aux algorithmes.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Gérard.
C'est l'intérêt de la deuxième partie.
Ça s'appelle Indy 9. On suit de près ce projet puisqu'on a eu l'occasion d'échanger au CES de Las Vegas en janvier dernier.
Tout à fait.
Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant et on va parler avec Lucas Perraudin, vous savez, notre expert réseaux sociaux. Non pas de réseaux sociaux aujourd'hui, mais des moteurs de recherche avec cet engouement autour de toutes ces technologies ChatGPT qui arrivent sur Bing. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution dans le domaine du moteur de recherche? On en parle avec Lucas Perraudin dans un instant. Merci d'être là, à tout de suite.
Tech & Co. Décryptage.
Voilà, on décrypte l'actualité tech avec un vrai spécialiste de tous ces domaines, c'est Lucas Perraudin. Bonsoir Lucas.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver. On va passer un peu plus d'une heure ensemble, puisque au-delà de ce rendez-vous sur les moteurs de recherche et l'évolution de tout cela, tu resteras avec nous jusqu'à 22h pour le débrief de l'actu tech avec ce soir du beau monde. Julie Rago sera là, Enguerrand Renault et Taïk Riss. Ça commence dans quelques minutes. Mais auparavant, Lucas, tu es avec nous pour nous décrypter tout ce qui se passe dans le monde du moteur de recherche. Un domaine qui était plan-plan depuis toutes ces années, depuis 20 ans. Une requête, c'est toujours pareil. Alors, il y a eu des évolutions, bien sûr, mais le fondement n'a pas changé. Et puis, ChatGPT est arrivé, et puis Bing s'est emparé de tout ça. Et on se pose la question, est-ce qu'on est à l'aube, en fait, d'un changement radical de la manière dont on recherche l'information sur Internet?
Alors, oui, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. C'est Microsoft, un peu, qui a remis le feu aux poudres. C'est une des plus anciennes batailles de l'ère numérique, en fait. Les moteurs de recherche et les navigateurs Internet.
Il y a tellement d'argent en jeu.
Énormément. Alors, Microsoft a annoncé, effectivement, un partenariat entre Bing et OpenAI, donc ChatGPT. Et ça a déclenché une réaction en chaîne. Dans la foulée, 48 heures plus tard, Google s'est empressé de faire une annonce à son tour, en parlant de l'évolution de son moteur de recherche qui serait alimenté par Bard. Alors Bard, c'est son... Je vais utiliser ce mot beaucoup ce soir, LLM, Large Language Model.
Oui.
C'est son ChatGPT à lui, Bard. Et comment tout ça allait changer.
Qu'est-ce que c'est que le Large Language Model? Tu pourras peut-être nous expliquer tout à l'heure. Allez, tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Comme ça, on ne perd pas de temps sur les moteurs de recherche.
Parce qu'effectivement, c'est un peu technique, il faut un peu de temps. Et en gros, cette annonce, c'était un peu un fiasco, pour être tout à fait honnête, parce qu'elle a été précipitée par l'annonce de Microsoft. Donc, quand ils ont voulu démontrer les résultats de la recherche de Bard, il y avait des choses qui étaient factuellement inexactes dans les résultats, partiellement. Ils ont voulu faire une démo sur un smartphone et ils n'ont pas trouvé le smartphone, donc ils n'ont pas fait la démo.
Le smartphone avait disparu.
Et ça refroidit les investisseurs. Ça s'est passé à Paris, mais c'était une annonce mondiale. Ouais. Dans la journée, la valorisation de Google est tombée de 100 milliards de dollars, de 8%. Donc,
c'est chaud là.
C'était, en tout cas, on n'a jamais vu Google trébucher comme ça.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, les dessous de ce fiasco, de cette conférence de presse?
Oui, alors.
Qui, en plus, comble de malchance, s'est déroulé chez nous, quoi, à Paris.
Ça s'est déroulé à Paris, il y a des chances que s'ils sont superstitieux, ils ne refassent pas un événement à Paris avant longtemps.
C'était la première fois qu'ils faisaient un événement international dans leurs locaux parisiens.
C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'AI aussi chez nous, ce qui est un bon point. Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut vraiment remonter au début des années 2000, en fait. Il faut comprendre que, avec l'explosion d'Internet, du nombre d'utilisateurs, on a très vite vu que les gens qui allaient donner les points d'entrée Internet aux utilisateurs allaient faire beaucoup de marge. C'était des business extrêmement lucratifs. Et donc, on a commencé cette bataille aux moteurs de recherche et aux navigateurs Internet. Et à l'époque, il y avait énormément d'acteurs. Il y en avait plus qu'aujourd'hui. Google est né. Microsoft était déjà là. Mais c'est une société qui s'appelle Yahoo qui dominait le monde, qui avait plus de 50% de market share.
C'est vrai. Il y avait quoi à l'époque? Il y avait AltaVista, il y avait il y avait Lycos aussi.
Il y avait Lycos, il y avait des Caramel en France aussi.
Caramel,
portails,
en effet.
C'était des stratégies, ce qu'on appelait les stratégies de portail. C'est-à-dire que Yahoo, en gros,
L'idée, c'était d'avoir un maximum du contenu d'Internet sur le site, de garder les gens sur le site au maximum et de les renvoyer sur d'autres sites, mais de manière un peu plus anecdotique.
Quand on ne pouvait pas faire autrement.
Voilà. Donc, on consultait Yahoo News, Yahoo Mail, Yahoo Sport.
On restait dans l'environnement, maîtrisé de Yahoo.
Stratégie de portage.
Un Internet dans l'Internet, finalement.
Exactement. Mais comme l'Internet n'était pas aussi structuré, ça marchait bien. Microsoft, eux, ils ont une autre stratégie. Ils ont essayé de nous forcer d'utiliser leurs produits en les préloadant sur les PC qu'ils vendaient. Ça n'a pas très bien marché, parce que l'expérience d'Internet Explorer, c'était pas génial. Et c'est Google qui a été le plus malin, qui a compris que la stratégie du portail, ça marchait pas. On pouvait pas mettre tout l'Internet sur un seul site. Et que la meilleure stratégie, c'était d'aller référencer tout le contenu d'Internet de manière extrêmement précise. Comme ça, lorsqu'on allait faire des recherches, ils allaient nous renvoyer vers les sites qui étaient les plus pertinents pour notre recherche. Et ça, ça a bien marché. Et ils ont gagné la bataille à partir de 2007. Google a atteint 80% de part de marché. 93% l'an dernier. Aujourd'hui, 70% du business de Google, c'est du search. Et chez Microsoft, c'est négligeable.
Ouais, bah ouais. Et pourtant, Dieu sait si Microsoft a essayé de nous convaincre, quand on est sous Windows, de passer sous Bing, hein, bien sûr. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué.
Et Google avait une meilleure stratégie. Et d'un coup, on a ce drame, cette espèce de mini-drame.
Il y a aussi le combo Chrome. Google aussi, qui est terrible, quoi. C'est une arme.
Google, c'est la réponse à Internet Explorer Bing.
Voilà.
Effectivement. Mais c'est une meilleure expérience. Donc, les utilisateurs ont migré de Yahoo vers Google. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'adoption de ChatGPT, Microsoft s'est dit, on est dans un moment Google-Yahoo, en fait. Ils se sont dit, les utilisateurs d'Internet sont en train de migrer extrêmement rapidement vers d'autres usages qui sont ceux des LLM, des langages, des chatbots. Et faut rappeler que ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs gagnés en 5 jours. Ça avait pris 10 mois à Facebook pour atteindre 1 million et 2 ans et demi à Netflix. C'est un record d'adoption. Et ce que dit Microsoft, c'est qu'il y a à peu près 10 milliards de recherches Internet par jour et 40% d'entre elles donnent des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et donc le pari qu'ils font, c'est de dire, si je mets Bing qui donne des liens vers d'autres sites, plus un moteur conversationnel chatbot qui vous donne la réponse sur la première page, donc en gros je pose une question, ça me donne une réponse résumée, j'ai besoin d'aller nulle part ailleurs, alors ce sera satisfaisant, donc les gens vont plus utiliser ça. La conséquence, c'est que si beaucoup de gens utilisent cette version-là de Bing, moins de gens utilisent Google, et Google est à risque.
Et puis surtout pour Microsoft, aucun risque. Puisque de toute façon, ils ont zéro audience, enfin pas zéro audience, mais très très peu d'audience sur Bing. Donc pour eux, c'est tout bénef.
On est en train d'assister à de la guérilla concurrentielle. Google a tout à perdre. Et Microsoft a tout à gagner. Donc forcément, il y a un jeu d'annonce qui est très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Microsoft a fait cette espèce qu'ils appellent un copilote. En gros, c'est vous avez un assistant d'intelligence artificielle qui vous aide. Le problème, c'est que ça marche pas très bien. C'est pas très fiable. Alors, si vous êtes Google et que vous avez bâti votre réputation sur la fiabilité de vos résultats, la précision de votre indexation du contenu...
L'excellence de la recherche.
De la recherche.
Même si elle est sponsorisée, etc. Mais la plupart du temps, on trouve ce qu'on veut.
Et donc, en fait, c'est un risque parce que vous fournirez un service qui est moindre par rapport à celui que vous avez déjà aujourd'hui. Par contre, quand vous n'avez rien à perdre, ce que vous faites, vous sabotez la concurrence en montrant de l'innovation. Donc, Microsoft fait de l'image, montre de l'innovation. Google ne peut pas prendre ce risque et ils ont retardé ça à raison parce que ça marche pas très bien. Je peux expliquer très rapidement pourquoi ça ne marche pas très bien. Un large language model, d'abord, ça donne parfois des réponses qui ne sont pas factuelles. Donc, il y a des erreurs parce que ça tient à la raison dont ça source les informations, c'est compliqué. Il est très difficile d'identifier les sources, voire impossible. Ça, encore une fois, c'est dû au fonctionnement parce qu'il prend l'information, il la coupe en petits morceaux, il la recombine et c'est dur de savoir comment il l'a recombinée.
En fait, une phrase provient de plusieurs sources, en quelque sorte.
Ça peut provenir de dizaines de milliers, de milliards de sources. Et enfin, encore plus dérangeant, c'est que ces systèmes ont des hallucinations. Ça s'appelle littéralement des hallucinations, c'est-à-dire qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Si on va au-delà de poser une question, avoir une réponse et qu'on commence à rentrer dans un dialogue, ils peuvent très vite raconter n'importe quoi. Il y a plein d'exemples sur le web où ça peut être parfois effrayant. Alors ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent, mais ça a l'air très effrayant parfois.
C'est dingue qu'il n'y ait pas des algorithmes de vérification de l'information encore. Ça va sans doute arriver, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils racontent n'importe quoi.
Alors, il y en a des algorithmes, il y a l'apprentissage non supervisé, de l'apprentissage supervisé, ce qu'on appelle du reinforcement learning, mais on n'a pas la solution pour avoir de la fiabilité. On parlera tout à l'heure de Meta, parce que Yann LeCun a fait beaucoup de déclarations, c'est hyper intéressant de voir comment
il change. Il a dit que c'était moyen, ChatGPT, je crois, Yann Le Cam.
Ouais, alors bon.
On y revient tout à l'heure.
C'est un débat hyper complexe. Mais en gros, le drame auquel on a assisté, voir Google trébucher, c'est parce que Microsoft a fait de la guérilla en utilisant un produit qui n'est pas prêt,
oui,
et sur lequel il n'avait rien à perdre. Après, il y a une grosse question à se poser qui est hyper intéressante, c'est que si ces copilotes deviennent fiables, et que nous, lorsqu'on tape des recherches, on s'arrête à la première page et au résumé la moitié du temps. On ne va plus sur les sites que Google référence. Or, le business model aujourd'hui, c'est Google nous envoie vers des sites, ça fait du trafic, ils peuvent vendre de la pub, cette pub finance leur contenu, et dans le futur, on aura du contenu. Mais si on ne va plus sur ces sites, ils peuvent plus vendre de pub, et il y aura plus
de contenu.
Ça
casse tout le modèle de Google.
On va appauvrir le contenu d'Internet, et donc il va falloir repenser le business model. En tout cas, tout le monde, il y a un énorme intérêt du public.
Ouais.
Donc l'attention se porte vers les modèles de langage. Donc tout le monde investit. On a vu Meta, on a vu OpenAI, on a vu Microsoft, on a vu Google. Snap a fait une annonce avec OpenAI d'un robot conversationnel la semaine dernière. Ça va changer.
Twitter aussi sur le coup. Hein, j'ai cru comprendre que Elon Musk voulait aussi lancer un concurrent d'OpenAI. Donc
on va en entendre parler pendant les 10 prochaines années.
Après, je me méfie malgré tout des effets d'annonce et de la ferveur, de la, on va dire, de l'émulsion qu'il y a tout autour de ça. On l'avait vu avec le métavers, hein, Lucas. On en parlait l'année dernière.
Ça n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Tu es sûr de ça?
Certain. Ça fait déjà partie de nos vies, on en a parlé.
Oui, non, mais c'est vrai.
C'est sous-jacent à énormément de choses qu'on fait déjà.
On revient dans un instant. On attaque notre deuxième heure de Tech & Co dans une minute avec, évidemment, au sommaire de notre deuxième partie, je le disais, le débrief de l'AcuTech avec Lucas qui reste là, Julie Rago, journaliste à Tech & Co, Enguerrand Renault, consultant chez Image7, et Taï Chris pour commenter toute l'actu. Et croyez-moi, ça va être chaud bouillant. À tout de suite, merci d'être là.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà, et en ce jeudi soir, deuxième partie de Tech & Co, c'est un rituel maintenant, le jeudi 21h-22h, on débrief l'actu tech avec nos spécialistes. Et ce soir, Julie Rago est avec nous.
Bonsoir,
deuxième débrief de l'actu tech pour Julie.
Déjà. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Julie, ravie de t'accueillir. Georges, journaliste à la rédaction de Tech & Co. À côté de toi, Julie, tu l'as reconnue?
Pas du tout.
Tu ne sais pas de qui il s'agit. Taï Chris.
C'est sympa.
Salut Taï.
Salut.
Ravi de te retrouver.
Merci.
Voilà, fondateur de On Off, une belle appli qui cartonne, qui vous permet, entre autres, de multiplier les numéros de téléphone sur un seul téléphone avec une seule carte SIM.
Exactement.
J'ai bien appris ma leçon, t'as vu?
Ouais.
Et ça fait plein d'autres choses.
Ouais.
Enguerrand Renault est avec nous. Salut Enguerrand.
Salut François.
Voilà, qui, un peu comme moi, j'allais dire, c'est pas péjoratif, un vieux de la vieille de l'actutech, quand même. Hein, voilà. T'as été journaliste pendant de très très nombreuses années, notamment au Figaro. Et maintenant, tu es consultant chez Image7. Et donc, Lucas Perraudin, toujours avec nous.
Bonsoir.
Fondateur de Moula Digital. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Lucas, Lucas a on va dire une expérience, un passé dans la tech. Tu as travaillé chez HP, tu as travaillé pas mal d'années aussi chez Meta, hein. C'était ton dernier job et tu étais le patron de tout ce qui était AR, VR au niveau Europe. Tu as décidé de lancer ta boîte de consult.
Exactement.
Comme on dit, hein, de consultant, en quelque sorte.
Transformation digitale,
et ça cartonne, bien sûr. Alors, dans l'actu, on va commencer par Meta. Plein de choses intéressantes parce que, bien sûr, Meta veut réagir par rapport à toutes les annonces que ont pu faire à la fois Microsoft, mais aussi Google. On l'évoquait il y a quelques instants avec l'annonce de, comment on dit, Llama, c'est ça?
Moi, je dirais Llama.
Llama, un peu à l'espagnol, en fait.
Ouais.
C'est ça, Llama, qui est le concurrent de ChatGPT. Alors ça, c'est la première actu de Meta, parce qu'on en a d'autres, hein, bien sûr. Il faut savoir que Meta travaille, on le sait pas trop, parce que Meta est très discret sur l'intelligence artificielle. Dans Facebook et dans Insta, il y en a beaucoup, bien sûr, mais on ne sait pas trop. Tout ça, en tout cas, on la voit pas, elle est pas très visible. Et il faut savoir que il y a une cellule d'experts, de cerveaux d'intelligence artificielle chez Meta, notamment à Paris, qui est reconnu mais mondialement.
Ouais. Leader mondial avec des gens parmi les plus brillants, et notamment Yann Lequin, qui lui est basé à New York, si je ne m'abuse physiquement, qui est un Français qui lit tout ça et qui est une sommité mondiale de l'intelligence artificielle.
Voilà, Yann Lequin, et puis il a toute une équipe ici à Paris, hein, Meta qui investit depuis de très nombreuses années.
C'est pour une petite anecdote, moi lorsque je travaillais chez Meta et qu'on allait à leur étage faire des réunions, on se
faisait rien.
Non, on faisait trop de bruit.
C'est vrai.
Ouais,
mais toi t'étais avec des masques et tout,
les nouveaux masques Oculus, voilà. Etc.
Et bien sûr. Ouais, toi, t'étais un peu le rigolo de la.
Ouais, c'est sérieux pour eux.
Et voilà. Et qu'est-ce qui développe à Paris Meta en termes d'intelligence artificielle? C'est vraiment le noyau dur de Meta ou c'est l'une des cellules qu'il y a un peu dans le monde?
A priori, c'est le centre phare.
Le centre phare.
Bon, après, maintenant, il y a beaucoup de télétravail et puis les équipes sont extrêmement réparties, même aux États-Unis. Parce que moi, quand j'y suis allé, il y avait beaucoup de gens à Menlo Park, qui est vraiment le centre historique. Je pense que maintenant, entre Menlo Park et Seattle, il y a débat sur le nombre d'employés. Et puis, il y a beaucoup de gens aux États-Unis répartis. Donc, il y a des gens partout maintenant. C'est un peu différent, hein, post-Covid. Mais ils travaillent sur plein de choses. Il y a de l'AI partout. Dans Facebook, les moteurs de recommandation, donc le votre feed, il est nourri par l'AI. C'est l'AI qui décide ce qui est le plus pertinent à vous montrer. Quand vous chargez une photo, il y a 4 ou 5 moteurs d'AI qui marchent. Il y en a un qui reconnaît, qui classifie qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Il y en a un qui regarde si c'est du contenu offensif. Il y en a un qui regarde s'il y a des gens qui sont reconnaissables dans vos
dans votre flux d'amis.
Relations pour les taguer. Mmh. Ouais. Donc il y a de l'AI partout derrière Meta, il y a de l'AI partout. Derrière Google, il y a de l'AI partout. Dans votre vie, tous les jours, il y a de l'AI.
La seule chose qui est finalement très dérangeante quand on voit qu'il y a de l'AI partout sur les photos, sur Insta, etc., c'est que la façon où c'est construit, c'est toujours pour avoir augmenter le revenu financier à la fin. Donc, c'est-à-dire, finalement, le flux d'actualité qu'on va nous montrer n'est pas pour améliorer notre connaissance d'un côté positif, n'est pas pour les jeunes de montrer des trucs éducatifs. C'est pour montrer la vidéo qui va, pour ce jeune-là, cliquer le mieux possible pour, finalement, lui vendre le plus de la pub. Et ça, c'est quelque chose fondamental plus business.
Et qu'on ne sait pas, bien sûr.
Hein?
Enfin, qu'on ne sait pas, quand on
l'utilise. Ne sait pas, mais
on l'oublie, même si nous, on le sait, au bout d'un moment, on est tellement.
Quand tu vas, par exemple, sur YouTube, tu sais très bien que si tu commences à regarder une vidéo d'un style, YouTube va très vite comprendre que tu aimes ce style de vidéo. Des gens qui sont complotistes vont regarder des vidéos complotistes, leur fil d'actualité va être très, très complotiste.
Juste pour modérer un peu ça, l'AI, elle joue un grand rôle dans la protection des utilisateurs.
Et dans la modération.
La modération de contenu, c'est de ça que je voulais parler. Exactement. Donc, les contenus offensifs, la nudité, les signes haineux, etc. Ça n'attrape pas tout, mais c'est des filets de rétention qui sont quand même assez efficaces. Donc, ça sert pas qu'aux mercantiles, ça sert aussi à la protection de la communauté de certains types de contenus, même si on sait que parfois ça marche pas. Mais par exemple, sur la nudité, c'est extrêmement efficace. Sur ce qu'on appelle.
Il y avait eu des bugs d'ailleurs sur des tableaux mythiques, qui avaient été détectés comme étant une image
l'origine
pornographique.
L'origine du monde, c'est pour une intelligence artificielle, c'est du porno, et pour l'œil d'un amateur d'art, c'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre.
Exactement.
C'est vrai qu'on évoquait l'excellence à la française de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on connaît pas trop finalement.
Non, et ça c'est extrêmement intéressant parce que effectivement derrière. Les groupes d'intelligence artificielle chez Google, il y en a beaucoup, chez Facebook, FAIR, donc à Paris, qui avait été créé en 2013 ou 2014 avec Yann LeCun, qui est quand même le père de l'intelligence artificielle. Chez OpenAI, il y avait quand même beaucoup de Français. En fait, on retrouve beaucoup de chercheurs français un petit peu partout, et c'est ça qui est très intéressant. Certains d'entre eux vont même ont développé eux-mêmes des modèles de LLM, Large Language Model, et c'est le cas de Dust, c'est le cas de LightOn. Il y a beaucoup de start-up françaises qui sont derrière l'IA générative et qui pourraient avoir un coup à jouer.
Ouais, sauf que ChatGPT n'est pas français.
Voilà. Alors, ChatGPT n'est pas français, et puis il y a 175 milliards de paramètres, et à traîner, ça coûte 10 millions de dollars pour faire un coup d'entraînement, donc il faut quand même beaucoup de financement derrière.
Beaucoup d'argent.
Par contre, juste sur le paysage mondial de l'AI, on a Meta avec PyTorch et Google avec TensorFlow qui mettent à disposition en open source énormément de ressources pour que des sociétés puissent aller travailler. Donc il y a de la capacité, il y a des modèles d'AI, des deep learning, et il y a de la capacité de processing qui est mise à disposition en open source. Llama, on pourra peut-être faire une petite aparté dessus. Llama, qui est annoncé par Facebook, il a la particularité d'être uniquement entraîné par de la donnée publique et complètement open source. Donc, le code est accessible à tout le monde et tout le monde peut le faire. Donc, c'est une autre démarche.
C'est une autre démarche qui est plus intéressante intellectuellement que ce que fait, par exemple, OpenAI, à ton avis ?
Ouais, alors c'est compliqué. Après, il y a une espèce de concours de à qui sera le meilleur. Il y a une espèce de course à l'armement. En gros, dans un modèle de LLM, je suis désolé, si on a une minute pour plonger dedans, on peut bien comprendre comment
bien
ça
sûr,
marche.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Il y a trois paramètres, mais les deux principes. Il y a la profondeur, donc combien de couches de learning, hein, je vais expliquer ce que c'est, combien de paramètres et quelle quantité de data on utilise pour les entraîner. Les paramètres, il faut voir ça. La meilleure similitude que je peux vous donner, c'est une table de mixage. Vous voyez une table de mixage avec plein de boutons? Eh ben, un paramètre, c'est un bouton, il peut aller de 0 à 1, n'importe où. Hein, on peut... Bon, ben, imaginez 175 milliards de boutons. Voilà, ça, c'est ce que fait le modèle. Il entraîne des réglages.
Il commence à faire paniquer mon réalisateur. Voilà.
On rentre un son
c'est derrière sa table de mixage, là.
On rentre un son d'un côté, il doit reconnaître ce qu'est ce son. Et il y a 175 milliards de boutons qui peuvent être entre 0 et 1 n'importe où. Et il s'entraîne. Et c'est ça qui fait qu'il reconnaît. C'est comme ça que ça marche un peu. C'est vraiment simplifié. Ce qu'a fait Facebook, c'est dire, nous, on n'a pas besoin de 175 milliards. On prend 65 milliards de paramètres. Mais on indexe beaucoup plus de données, une donnée qui est beaucoup plus publique. En fait, on entraîne plus souvent un truc qui est plus petit et ça donne de meilleurs résultats. Et by the way, ça tourne plus vite et c'est open source et c'est moins coûteux pour les gens qui s'en servent de le faire tourner. Donc, c'est ça un peu la différence de philosophie.
D'accord, oui, oui, oui.
Je suis désolé, c'est un peu compliqué.
Non, mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez opaque, cette IA, hein, Julie.
Moi, ce que je suis assez curieuse de voir, c'est comment ils vont l'utiliser, comment Meta va l'utiliser. Ils disent que ça va être utilisé pour Instagram, je crois, WhatsApp, Messenger. Mais moi, je suis très curieuse de voir comment ça va être utilisé. Enfin, comme tu le disais, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est juste une course à qui saura concurrencer ChatGPT le plus vite, Google avec Bard, etc. Mais que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de plan derrière pour avoir quelque chose de concret derrière qui aidera vraiment les utilisateurs et les internautes.
Alors, on comprend WhatsApp, finalement. On sait très bien ce qui va nous arriver. C'est-à-dire que demain, on va avoir des discussions avec une IA. Alors, des discussions sans doute à caractère mercantile. Hein, ça sera...
Messenger, on pourra discuter. Il y a déjà des chatbots sur Messenger avec toutes les marques.
Non, enfin, je ne sais pas, Lucas. Ça paraît tellement évident, mais peut-être qu'on se trompe.
On parlait de la société qu'on a fondée. Nous, quand on a dit le commerce va changer, bientôt, vous aurez une discussion avec un avatar dans WhatsApp, en passant vos commandes, en disant refais-moi le panier que j'ai commandé la semaine dernière, t'enlèves les bananes et puis tu mets la promo des yaourts. Et il va comprendre, il va vous faire la liste et vous direz c'est bon, oui c'est bon.
Et ça sera en vocal ou simplement à l'écrit ?
Vocal, ça marche aussi. Il y a, par exemple, dans OpenAI, il y a un plugin qui s'appelle Whisper et qui comprend ce qu'on dit, qui le traduit en texte et après il prend le texte et il le processe.
Ouais, c'est ça.
En temps réel, on en avait parlé. J'en avais parlé la dernière fois. Il y a un truc fascinant. Il y a un petit jeune qui a mis un tutoriel sur écouter le patron de la Fed quand il fait l'annonce des changements de taux. Et donc, il écoute, il comprend et il fait du trading en direct selon ce qui est annoncé pour arriver avant les autres dans les salles de marché. Voilà. 45 minutes de training, c'est faisable. Voilà. C'est le monde dans lequel on va vivre. Ouais, ça. Il faut vraiment s'y habituer.
Oui, il faut s'y habituer, il faut être prêt, hein, parce qu'évidemment, ça va bouleverser plein de choses en guerre, on le voit. Enfin, il y a déjà des métiers qui... Hier, par exemple, on recevait un patron d'une start-up qui fabrique des scénarios grâce à ChatGPT. Enfin, pas tout à fait ChatGPT, c'est une IA un peu particulière, etc., qui a été développée. Et c'est pas n'importe qui, le gars. Hein. C'est un scénariste qui a travaillé pour Braco, notamment la série sur Canal.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ChatGPT ou tous les autres modèles vont offrir des stagiaires très intelligents, gratuits, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, ça veut dire que... J'imagine que ça fait saliver un
nom. Youpi, on va avoir plein de stagiaires gratuits. Non,
c'est chouette. C'est des stagiaires.
C'est ça qui est assez extraordinaire.
C'est des stagiaires. Désolé de te couper, mais c'est des stagiaires maintenant.
Bien sûr, ça sera des seniors.
Dans 5 ans, ça sera des super seniors.
Alors, c'est vraiment un outil.
Et aujourd'hui, dans l'édition, on a vu les premiers livres, bon, qui sont plutôt pas très bons, mais ça s'améliorera. Tous les cabinets juridiques qui se disent, mais c'est extraordinaire. Dans la presse, que tu connais bien, dans les médias, tout ce qui est desk, tout ce qui est news qui tombe, bon, ça peut être très bien refait à la manière d'eux, à la manière de BFM, à la manière de, on va dire, RTL ou à la manière du Figaro. Donc ça va être assez intéressant.
Bon, on fait un petit break. On revient dans un instant. On va poursuivre sur l'IA. On va poursuivre aussi sur le. On a un autre chapitre méta que tu connais bien puisque c'est tout ce qui est AR, VR et la roadmap de Meta dans ce domaine-là a été divulguée inopinément ou pas d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec Julie, Taïg, Enguerrand et Lucas. C'est Tech & Co, c'est le débrief de l'Actu Tech. Une minute de pub et on est de retour. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le retour de ce débrief de l'Actu Tech en ce jeudi 2 mars 2023 avec nos spécialistes. Julie Rago qui est là, journaliste à Tech & Co, Lucas Perraudin, fondateur de Moula Digital, Taï Chris, fondateur de On Off, et Enguerrand Renaud, consultant chez Imagechette, journaliste aussi. Et tu t'apprêtes à sortir ce bel ouvrage que j'ai entre les mains, Enguerrand. Oui. L'électricité de la production à la consommation. Alors, sujet d'actualité.
Exactement. En fait, c'est un sujet, je me suis dit, pour avoir suivi pendant une bonne vingtaine d'années la transition digitale, ce qui est très intéressant, c'est la transition énergétique. Et en fait, on s'aperçoit toutes les questions qui sont posées. Alors, j'ai commencé ça avant la crise, hein. Oui. J'étais obligé de réécrire une partie. Et le réseau électrique change tous les 50 ans. Il n'avait pas changé depuis 73 et le nucléaire. Et là, on va vers l'électrification de la société. Donc, il va falloir produire davantage et avec des énergies renouvelables. Ah ouais. Et ça pose énormément de problèmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau électrique, ça doit être maintenu toutes les minutes, toutes les secondes à égalité entre la consommation et la production sans pouvoir stocker. Donc c'est extrêmement délicat.
Alors demain, on pourra stocker, hein, je pense, les énergies renouvelables.
Demain, on pourra stocker. On peut déjà stocker, mais à des coûts de production qui sont
très élevés. Mais espérons que ça baisse. Voilà, l'électricité, la production, la consommation. Ne vous précipitez pas tout de suite, ça sort mi-mars. Et c'est dans la collection pour les nuls. Voilà. Va falloir que je m'y intéresse, je crois. Dans l'actualité, alors, tu voulais juste rebondir sur tout ce qu'on évoquait sur l'IA, ouais. Lucas, parce que Enguerrand disait, bah, finalement, on va avoir plein de petits stagiaires gratuits qui vont être là et qui vont pouvoir nous aider. Tu voulais apporter une petite subtilité,
juste
tempérée
nuancer.
Là-dessus. Oui.
Les LLM, ça marche bien, les modèles de chat. Ça marche bien pour s'inspirer et créer du contenu, mais ça raconte très vite n'importe quoi. Il faut toujours les superviser. C'est plus un enfant de 11 ans, 12 ans que un stagiaire qui sort d'école de commerce. Donc,
ouais, c'est un enfant brillant qui peut péter un câble.
Voilà. Et ça marche à tous les coups. Donc, on aura beaucoup d'aide, mais avec, ça n'a pas de jugement. Ça ne comprend pas ce que ça raconte et ça n'est pas capable de sens commun. Je sais que c'est compliqué à comprendre quand on interagit avec.
Oui, bien sûr.
Mais c'est de la statistique, c'est des maths derrière.
Oui, parce que pour nous, en fait, c'est incompréhensible. On se dit, mais pourquoi il se trompe?
Ouais.
En fait,
on sait tellement de choses, comment peut-il se tromper?
Et puis en plus,
la compréhension et la connaissance, c'est deux choses différentes.
Il le dit, enfin, il l'écrit, l'IA l'écrit avec un tel aplomb qu'on se dit, ça peut être que vrai. Ouais. Finalement, on en parlait la semaine dernière avec Frédéric Simotel. On a tapé qui est François Sorel et qui est Frédéric Simotel. On l'a fait en direct. Il y avait plein de choses vraies, mais il y avait plein de choses fausses. Par exemple, ils ont dit que je présentais Zone Interdite sur M6 et Turbo, par exemple.
Il écrivait
ça d'une manière tellement
avec un aplomb.
Et puis c'était au milieu d'informations qui étaient vraies. On se dit, bah tiens, finalement, quelqu'un qui sait pas trop ce qu'on fait, bah se dit, bah tiens, il a travaillé dans Zone Interdite, il a présenté Turbo alors que c'était faux, quoi. Enfin voilà, on referme la parenthèse. Lucas, deuxième partie de l'actualité Meta, il y a l'IA, mais il y a aussi la VR et l'AR. On sait que Mark Zuckerberg dépense beaucoup d'argent là-dessus, contre vents et marées d'ailleurs. Et on en sait un petit peu plus sur le calendrier des sorties des nouveaux produits Meta pour l'AR et la VR.
Alors, disclaimer, j'ai bossé 4 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas d'informations internes à partager, simplement. Donc, on ne sait pas si c'est
la roadmap. Ça fait une petite année que t'es parti, en plus. Donc, j'imagine que tout ça a évolué.
Ouais. Mais, donc, on pense que c'est la roadmap, on ne sait pas si c'est la roadmap. Ce qu'on peut en dire, c'est que, par rapport à tout ce qu'on sait, c'est très cohérent, par rapport aux ambitions affichées. Et tout ce qui est dit, si vous regardez Oculus Connect, ou qui s'appelle maintenant Meta Connect, je crois. Oculus Connect, c'est pour les anciens comme moi. Donc tous les ans, la grand-messe de...
Oui, oui, oui. La keynote
Meta,
VR.
Voilà, la keynote avec j'oublie son nom m'échappe à l'instant, mais ami qui est le CTO de Facebook Reality Labs, de Meta Reality Labs.
Alors, j'ai pas son nom.
Que j'ai rencontré personnellement. Qui était super. On a une super conversation. Et donc, il fait des annonces sur quoi il travaille. Et si on regarde ce qu'il annonce et ce qui est dans cette roadmap, grande cohérence. D'accord. Donc, a priori... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est fort possible que ce soit relativement vrai.
Alors, on a quoi? De l'AR, de la VR? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons de chez Meta?
On a, dans ce qui a fuité, ou ce qu'il dit avoir fuité, un Quest, un nouveau Quest cette année.
Voilà.
Donc Quest 2 serait remplacé.
Donc ça serait un Quest 3.
Voilà, je ne sais pas comment il va s'appeler, mais ce serait, on va dire, un Quest 3. Ensuite, il parle, autre chose cohérente, d'une augmentation du prix et de la nécessité d'avoir un contenu qui soit plus engageant, ce qui paraît cohérent avec tout ce qu'on sait, puisque Facebook s'est passé de... J'arrive pas à dire Meta, mais c'est passé de 12 milliards de profits
par... Parce que t'es un vieux, Lucas.
Voilà, c'est passé de 12 milliards de profits par trimestre à 4 milliards, donc ils ont divisé le profit par 3, donc ils peuvent plus subventionner le hardware, donc c'est très cohérent. Ça dit que Ray-Ban Stories, ça aurait un successeur cette année.
Donc une nouvelle paire de lunettes.
Voilà, mais que les vraies lunettes DR, ce serait en 2027, ce serait le plan. Ce qui est aussi cohérent avec un long interview que Mark Zuckerberg avait donné à l'automne dernier, qui est disponible. Si vous voulez savoir les secrets de Meta, vous regardez cette interview d'une heure et quart de Mark Zuckerberg. Il raconte, dans les laboratoires à Seattle, il parle de tout.
Oui, oui.
Donc il n'y a pas beaucoup de secrets.
Mais c'est rigolo parce que c'est assez transparent et Zuckerberg dit que tout, voilà, c'est vraiment pas prêt. Il faudra des années avant d'arriver à miniaturiser toute cette technologie pour l'avoir dans des lunettes ou avoir des masques qui ressemblent à quelque chose. Taï, tu crois, toi, à tout ça, à toute cette VR, à ce pari un peu fou que Mark Zuckerberg lance
100% quand le hardware sera suffisamment imbriqué, parce qu'aujourd'hui on n'a pas envie de se retrouver avec des grandes lunettes comme ça, etc. Mais un truc qui est certain, c'est que on consomme l'internet sur un petit écran qui est minuscule et on passe pourtant nos journées derrière à regarder des vidéos, à swiper. Imaginez si demain cette interaction n'est plus derrière un petit écran, mais vous êtes vous-même avec les sensations sur le corps, avec le côté vous pouvez tourner la tête partout, imbriqué dans ce monde virtuel. C'est 100% sûr que ça va marcher, et que ça va cartonner et que les gens vont devenir addicts. Et il y a des gens, malheureusement, qui vont préférer le monde virtuel. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous regardez une Instagrammeuse ou un Instagrammeur sur Instagram qui est sur un yacht à Miami ou quoi que ce soit. Et donc, beaucoup de jeunes, malheureusement, rêvent de cette vie-là sur un swipe. Bah, demain, ils pourront avoir la sensation d'être sur le yacht à côté de cette personne, et si vous payez, vous allez pouvoir peut-être lui taper sur l'épaule et lui parler et répondre. Donc, bien sûr qu'il y aura des...
C'est toi l'influenceuse, hein, Julie, t'as vu,
voilà,
on te tape
bien
sur l'épaule.
Donc, c'est sûr que ça va cartonner et que beaucoup de gens vont presque préférer le monde virtuel au monde réel, mais que quand le hardware deviendra imbriqué dans nos yeux, et ça, il faut attendre beaucoup d'années, à mon avis.
C'est un bon résumé, hein, Lucas, quand même, je trouve, parce que c'est vrai que c'est ça, hein, c'est l'immersion totale.
En fait, les expériences d'immersion sont déjà extraordinaires. Simplement, la friction d'avoir un masque chaud, lourd sur la tête, fait qu'on y va une fois, deux fois, et il parle de ça aussi dans la fuite, c'est qu'il y a moins en moins d'engagement avec le casque, parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Mais l'expérience, elle est déjà extraordinaire. Moi, je suis parti chez Facebook parce que j'ai mis un casque sur la tête. C'est incroyable. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que nous, on n'est jamais des bons cobayes. Parce que moi, je suis dans la tech depuis 20 ans, je suis hyper enthousiaste et je vais le mettre le casque, mais 99,9% des gens ne vont pas le faire tant que ça ne sera pas miniaturisé.
Voilà, dans les yeux.
Mais ça bouge quand même, hein, parce que je ne sais pas si tu il y a un Quest Pro qui traîne dans les locaux à la rédac. Et c'est vrai que je crois que je t'ai vu jouer à Beat Saber ou des trucs comme ça.
Non, ce n'était pas moi.
C'était pas toi. Je crois que c'était toi quand même. Je vais pas un peu balancer. Mais c'est vrai que c'est hyper addictif aussi,
c'est
ce type de choses.
C'est addictif, mais sur une très courte durée, hein, parce qu'on le rappelle que la batterie ne dure pas très très longtemps. Enfin, on l'utilise quoi, une heure, peut-être un peu plus, et la batterie est déjà à plat.
Ouais.
Donc pour l'utiliser au quotidien, en permanence, comme Meta souhaiterait à peu près le faire, ou au moins sur une grande partie de la journée, pour l'instant c'est un échec. Enfin, je ne vois pas comment ce type d'objet peut être impliqué dans le quotidien de tout le monde, de tous les internautes. Pour l'instant, c'est juste un gadget qui est certes très cool à utiliser de temps en temps, mais à l'utiliser au quotidien, je vois pas du tout comment c'est faisable aujourd'hui.
Enguerrand, un pari fou, hein, quand même.
Moi, ce qui m'étonne vraiment chez Mark Zuckerberg, c'est que il était pionnier de l'intelligence artificielle et ça n'a pas l'air de le passionner. Ce qui le passionne, c'est l'AR, le VR, le Quest, Oculus. le méta.
Ouais, il a l'air habité, hein, par
ça. Il a l'air totalement habité. Et donc, il met énormément de paris. Vous avez dit, ils ont investi plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et ça ne correspond pas ni à la demande, ni à l'usage. Et il est passé à côté, alors qu'il avait investi très tôt dans l'intelligence artificielle, il est passé à côté d'un outil comme ChatGPT, qui lui, si on parle d'usage, a séduit 100 millions de personnes en un mois. Alors que Quest, Oculus, les lunettes, imaginez, Snap a lancé deux générations de lunettes qui n'ont pas marché. Ils ont lancé Meta a lancé une génération de lunettes avec Ray-Ban en disant au moins ça sera bien. Je connais pas les.
Je ne suis pas persuadé que ce soit le.
Je ne suis pas persuadé que ce soit
annoncé. Si je savais, je pourrais pas en parler.
Voilà. Et Mark Zuckerberg continue dans cette direction. Mais soit c'est un génie, il a raison.
Moi,
à terme.
J'ai envie justement de rebondir là-dessus. À mon avis, il a raison. Alors, dans un monde un peu plus, je veux dire, dans quelques années, on va s'en rendre compte. Pourquoi? Je vous explique la différence. C'est que aujourd'hui, on est d'accord, Internet appartient à tout le monde. Okay, quand je dis appartient à tout le monde, vous créez votre site internet, vous vendez sur votre site internet, vous devez payer des commissions à personne. Le pari que fait Mark Zuckerberg, c'est finalement, s'il est le premier à créer le monde virtuel le plus riche, le plus dense, où il y a toutes les villes, où il y a toutes les plateformes, où tout est dessus...
Ça sera un internet dans l'internet, finalement.
C'est un internet dans l'internet.
Et ça sera chez lui.
Ça sera chez lui. C'est comme la différence, c'est qu'aujourd'hui, internet appartient à tout le monde. Si Zuckerberg réussit son pari, internet lui appartiendra, en quelque sorte. Alors, il y aura peut-être plusieurs concurrents. Il y aura peut-être Google qui aura son propre monde virtuel, Zuckerberg aussi. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le monde virtuel de Zuckerberg, il y aura le Amazon, il y aura toutes les plateformes qui devront tous payer la commission à Zuckerberg, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Amazon, quand ils vendent en direct sur Internet, et voilà. Mais aujourd'hui, évidemment, on pense que c'est ridicule parce que personne d'entre nous va aller sur ce monde virtuel parce qu'il faut des grandes lunettes, etc. Mais imaginez que quelqu'un invente dans deux ans, où il n'y a aucune lunette à avoir, une technologie où c'est directement dans vos yeux, connecté en un clic. Vous avez fait une petite opération et vous cliquez sur votre smartphone et instantanément dans vos yeux, vous voyez ce monde virtuel. En un an, tout le monde est là-dessus et c'est échec et mat.
Ouais, oui, c'est pas pour. Je pense que oui, ça arrive à faire rêver, mais c'est pas pour tout de suite.
Vous en parliez tout à l'heure, c'était Yahoo. Et ça n'a pas fonctionné.
Alors, messieurs, dames, il est bientôt 21h30. Regardez, Thomas Schnell commence à tapoter du pied pour informer sur l'écho. On va le retrouver dans un instant. Et on poursuit sur ce sujet qui est inépuisable. Hein. Bien sûr, je sais que Lucas voulait réagir là-dessus. On va parler de TikTok aussi. TikTok qui est vraiment dans la tourmente. Là, c'est dingue comme l'étau est en train de se resserrer partout sur TikTok. En tout cas, l'étau occidental, on va dire. On revient juste après l'info écho de Thomas Schnell. À tout de suite.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Avec ce soir pour débriefer l'actu tech, Julie Rago, Lucas Perraudin, Enguerrand Renault, Taïk Chris. Taïk qui est... on était sur cette grande réflexion d'imaginer l'Internet de Mark Zuckerberg de demain, c'est-à-dire un Internet très immersif en VR, grâce à tout l'univers qu'il est en train de créer et avec tout ce matériel qu'il est en train de tester et d'améliorer de génération en génération.
C'est sûr que ça arrivera, c'est sûr qu'on va se rappeler... On va dire, vous vous rappelez qu'à l'époque, les gens utilisaient Internet sur un petit écran et tout le monde va rigoler en disant, mais comment on peut passer notre vie sur un petit écran alors que maintenant on est en immersion totale? Mais ça prendra beaucoup d'années parce que technologiquement, on n'est pas là.
Est-ce que c'est, à ton avis, alors, je sais que tu t'es déconnecté de Meta, mais est-ce que, à ton avis, la réflexion de Taïk ressemble à ce que a dans la tête Mark Zuckerberg de se créer son propre Internet immersif?
Alors je nuancerais, mais effectivement, alors d'abord, on parlait de l'intelligence artificielle, du tournant raté par rapport au métavers. En gros, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui et demain. Le métavers, c'est peut-être après-demain. C'est plus un big bet. Il y a moins de certitude que ça va arriver. Ça peut arriver. En tout cas, l'intelligence artificielle, c'est en route et ça va arriver. C'est en train d'arriver. C'est les 5 prochaines années. Le métavers, si ça arrive, c'est après. La vision de Zouk, alors effectivement, il y a deux choses. D'abord, il a une telle réussite avec l'introduction des réseaux sociaux qu'il a changé le monde et il voudrait le faire une deuxième fois. Mm-hmm. Et il y a quelque chose de un peu mégalo dedans, mais c'est normal, ça fait partie des motivations du business. Et il y a sa détestation. Moi, ce que je trouvais relativement intéressant et ça pour le business, c'était un apprentissage pour moi. J'avais jamais vu le monde comme ça. Il y a une très grande paranoïa par rapport à cette dépendance à iOS, Android. En fait, il déteste que son application ne puisse pas faire tout ce qu'il veut qu'elle fasse parce qu'elle est dans
emprisonnée dans un dans un écran qui ne lui appartient pas.
Voilà.
À la fois iOS, Android.
Et il y a beaucoup de tensions. Et puis avec le patron d'Apple, il se rencontre la première fois. Il lui dit alors pourquoi t'as pas de compte Facebook. Et l'autre lui dit parce que ça m'intéresse pas. Enfin, donc il y a tout un historique là derrière.
Il s'aime pas beaucoup.
Voilà. Mais donc il y a il y a aussi des gens par exemple qui gèrent les opérateurs télécoms. Pour que Facebook soit préinstallé sur l'image des opérateurs télécoms et des fabricants directement, pour pas que iOS ou Android les empêche de dessus. Donc, il y a vraiment cette stratégie de gestion du risque, parce qu'il y a une dépendance très forte sur iOS principalement, quoi.
On l'a vu avec le serrage de vis de la pub d'iOS l'année dernière, qui a coûté des milliards à Facebook.
Et donc, parmi les stratégies de sortie de cette dépendance, il y a tout ce dont je viens de parler aujourd'hui, et le métavers qui serait, si c'est nous qui inventons l'operating system, alors on n'aura plus cette dépendance. Mais il sait qu'il est obligé de partager.
Mais ce qui est agréable là, quand on voit en fait la différence entre un iOS et un Meta, ça rappelle un peu ce que je disais au début, c'est que fondamentalement, leur business model est placé à un curseur différent. Le business model d'un Apple, c'est justement de vendre un produit très cher, incroyablement qualité, mais de protéger l'utilisateur justement des pubs, de la sécurité, d'offrir le maximum de barrières à l'utilisateur et tu payes cher pour ça. Et de l'autre côté, un Facebook qui a une application qui a besoin de te vendre de maximum
parce qu'elle est gratuite
et qui a besoin que ce soit ouvert. Donc heureusement, finalement, en tant qu'utilisateur, tu as, parce que si jamais l'application elle était 100% totalement libre, elle n'avait pas toutes les barrières d'un iOS ou d'un Android, eh ben vous serez traqué beaucoup plus à l'intérieur de l'application pour augmenter les revenus.
Google, c'est un modèle de pub et pourtant ça fonctionne. Alors, est-ce qu'Apple veut protéger les utilisateurs ou est-ce qu'il veut protéger son business en se différenciant et profiter de sa position dominante sur le hardware? Il n'y a aucune charité là.
Non, il n'y a pas. En fait, c'est juste une stratégie différente. Tu as raison. Ils ne sont pas plus louables. Eux, leur stratégie, c'était de dire nous, on ne fait pas de la pub, on va protéger l'utilisateur, mais c'est leur.
Ou alors, on fait de la pub, mais on veut que ce soit nous qui fassions la pub, en fait.
Parce qu'ils collectent beaucoup d'informations.
Ils collectent beaucoup d'informations.
Et effectivement, ils protègent leur propre.
Leur propre clientèle, en quelque sorte.
Non, c'est vrai.
Il n'y a pas d'échappatoire. Si on veut utiliser de la tech, on donne des informations.
On termine le volet méta. J'aimerais qu'on donne la parole à Julie qui va nous parler de Blue Sky. Est-ce que vous avez entendu parler de Blue Sky, les amis?
Parce que j'ai rencontré Julie.
Eh bien voilà. L'alternative à Twitter, ça s'appelle Blue Sky, voilà, et qui sort en fait de l'imagination de Jack Dorsey, qui était le co-créateur de Twitter, rappelons-le. Et tu vas nous parler de Blue Sky.
Ouais, depuis quelques jours sur l'App Store, vous pouvez télécharger et ouvrir l'application donc Blue Sky, qui est littéralement un copier-coller de Twitter. Cette alternative, pour le moment, personne ne peut l'utiliser, à part si vous avez un code pour créer un compte. Vous pouvez la télécharger et l'ouvrir, mais ça s'arrête là. C'est uniquement sur invitation, donc. Mais pour l'instant, sur l'Apple Store, vous avez quelques images d'aperçu, et c'est franchement à s'y méprendre. On retrouve les mêmes symboles que sur Twitter, le retweet, le like, il y a la petite maison pour aller sur l'accueil, il y a le petit plus pour écrire des posts. C'est exactement pareil. Et le nom, il fait aussi forcément penser à Twitter. Blue Sky, ça signifie ciel bleu, oiseau bleu. Enfin, je pense qu'on peut faire le rapprochement. À noter que Blue Sky, c'était un projet au départ lancé comme une division de Twitter qui visait à décentraliser les réseaux sociaux de sorte à ce qu'ils ne soient pas contrôlés par une entité unique. Et en février 2022, Blue Sky est devenu un organisme indépendant, mais le but, ça restait le même. Mettre à disposition des internautes un réseau social en open source, décentralisé, un peu de la même manière qu'on a entendu parler de Mastodon il y a quelques temps. Cette alternative, donc, elle est soutenue financièrement par Jack Dorsey, vous l'avez dit François, mais on ne sait pas exactement s'il fait quelque chose derrière, s'il tient les ficelles, s'il dirige quelconque poste dans cette entreprise. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et cette arrivée de la version bêta dans l'App Store, elle pourrait signifier une arrivée très prochaine d'une version officielle et ouverte à tous. Mais pour le moment, on n'a aucune date de lancement qui a été dévoilée.
Voilà, ce Blue Sky, alors c'est étonnant parce que ça ressemblait étrangement à Twitter. Pour l'instant, c'est en bêta. On peut imaginer que si c'est déjà sur l'App Store, c'est que le lancement est imminent. Mm. Hein, tout est prêt. Ils doivent tester, sans doute faire monter la charge. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis, Lucas ou Taïg ou Enguerrand, ce Blue Sky? Qu'est-ce qui se trame dans la tête de Jack Dorsey?
Ça me ferait quand même beaucoup rire que Jack Dorsey, qui a réussi le premier lancement de Twitter, lance Blue Sky, alors que Elon Musk a mis 44 milliards de dollars pour, à la fin, avoir une coquille vide. Donc ça serait une histoire croquignolesque comme on en a vécu dans l'histoire de la tech. Voilà. Donc moi, ça me ferait rire. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'en sais strictement rien.
Pour l'instant, on a juste trois images. C'est ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu faire un réseau social un peu différent, mais bon, qui copie entre guillemets Twitter. C'est que là, les trois photos qui ont été dévoilées, c'est une copie conforme.
Alors, après, ce qui est intéressant, et en plus, j'avais travaillé sur un sujet similaire beaucoup, c'est comment c'est décentralisé. Comment, en fait, il faudrait regarder, j'ai pas regardé en détail parce que je viens de le découvrir, mais comment ils ont construit leur truc pour que ça appartienne en quelque sorte à tout le monde. Oui. Et ça, c'est un modèle intéressant. Parce que les réseaux sociaux, quand tous les autres produits sont des produits, surtout de consommation, d'achat d'un produit physique, on achète sur Amazon, etc. Les réseaux sociaux, c'est quand même différent parce que ça forme le caractère de nos jeunes, de notre jeunesse. Et donc, finalement, on se dit que les réseaux sociaux, est-ce que à long terme, est-ce que dans 100 ans, bon, on sera plus là, mais est-ce que dans 100 ans, les réseaux sociaux appartiendront toujours à des boîtes privées? Est-ce que ça change pas trop l'imaginaire de la jeunesse et que ça doit pas appartenir plus à tout le monde avec des histoires éthiques un peu plus différentes?
Oui. Voilà.
Bah, Dorsey, c'est un chantre de la décentralisation maintenant, de Web3. Alors moi je suis assez sceptique parce
que il est à fond dans les cryptos en plus.
Ouais, je l'ai vu faire des discours où il est au Kenya en train de leur expliquer que la crypto va les sauver, mais aussi il leur explique un peu de manière assez condescendante que leur gouvernement savent pas gouverner quoi. Il leur dit vous savez pas faire de la monnaie, mais c'est pas grave parce que nous à la Silicon Valley on vous a inventé des trucs, vous pouvez faire des échanges, maintenant on va vous sauver la vie. Ouais. Enfin il y a quand même dans ce message là
moi, la mégalomanie.
Le mec de la Silicon Valley qui va sauver l'Afrique, quoi.
Il paraît qu'il est proche d'Elon Musk. Enfin, qu'ils ont des relations assez amicales.
Il y a des mails qui ont fuité, en tout cas.
En tout cas, il l'avait soutenu dans sa deuxième tentative
d'acquisition de Twitter.
Après, est-ce qu'il a pris ses distances vu ce que Elon Musk a fait de Twitter?
Pourquoi il aurait pris ses distances par rapport à ce que Elon Musk a fait de Twitter?
Parce que Elon Musk n'a pas grandi Twitter, on peut pas dire ça. Il a commencé par supprimer la moitié, puis là encore. Ce week-end, il a fait fuir donc le modèle économique qui est basé uniquement sur la publicité. Là, c'est 100% de recettes publicitaires. Il a quand même fait fuir l'intégralité ou la quasi-intégralité des annonceurs. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas vu.
Peut-être. Je suis d'accord, mais ce qu'il faut quand même voir avec Elon Musk, peut-être je suis trop optimiste pour lui, mais je me rappelle, j'ai un copain qui avait vu ça de ses yeux. Il avait vu Elon Musk au tout début, quand ils étaient que 10 dans SpaceX, et il a été devant tous les mecs de la NASA, alors qu'ils étaient que 10 dans SpaceX, il a dit « Dans 10 ans, je ferai mieux que vous ». Et il a fait. Twitter, quoi qu'on dise, ça fait des années, ça marche, mais ils n'arrivaient jamais finalement vraiment à la rentabilité. Il y avait plein... Quoi, ils n'étaient pas rentables. Hein,
non, mais il a fait un tweet avant-hier, il a dit « J'ai la plus grande non-profit organization du monde.
Ouais, »
J'ai la plus grande charité du monde.
Voilà. Pour aujourd'hui, bien sûr qu'il est totalement dans la... Il a repris cette box et il est en train de la casser complètement, mais on verra. Il a pour l'instant tout réussi. On verra est-ce qu'il arrivera à le reconstruire. Et s'il arrive à le reconstruire, c'est une leçon.
Exactement. Une leçon. Ce qui est assez intéressant avec Elon Musk, c'est qu'il a raison, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. C'est-à-dire qu'il a réussi PayPal, il a réussi Tesla, il a réussi SpaceX. Mais ce sont des projets qu'il avait créés lui-même. D'accord, donc il avait sa vision et il savait où est-ce qu'il allait. Je ne suis pas sûr, là c'est pas un projet qu'il a repris, qu'il a créé lui-même, il l'a repris. Je ne sais pas s'il connaît tous les codes, je ne sais pas s'il sait exactement où il va. C'est un débat extrêmement intéressant. On va faire le pari,
moi je suis sûr qu'il y arrivera.
Il y a quand même de très grandes chances. Je disais que jusqu'à présent, il n'a pas fait preuve quand même d'une grande vista.
Non, c'est vrai que la différence, c'est que c'est pas lui qui a inventé Twitter, il rachète Twitter. On a l'impression qu'il découvre toujours des trucs sous le tapis.
Alors que Tesla et SpaceX s'y maîtrisaient deux.
Par rapport au nombre d'utilisateurs, Twitter, c'est un dixième des réseaux dominants. Mais il a réussi à mettre Twitter dans l'actualité et avoir ce qu'on appelle le share of voice. Je suis désolé, je sais même pas comment on dit en français le
part de voix.
La part de voix.
C'est
un néologisme un peu barbare, mais et ça, il a réussi à vraiment faire parler Twitter, à créer de l'attention bien au-delà de ce qu'il représente en part de marché. Donc c'est déjà, c'est le donner de l'élan quand même. Il a un peu de quoi travailler avec tout ça.
On revient dans un instant. On arrête Twitter, on arrête Meta, on s'intéresse à TikTok, spécial réseau social ce soir. TikTok qui est vraiment dans la tourmente. On en parle avec toutes les pressions que vit TikTok actuellement et on commentera tout cela dans une minute. A tout de suite pour la suite et la fin de ce débrief.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le retour de ce débrief de l'actu tech et Léa Benyaïm nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Léa.
Bonsoir François.
Et tu vas nous parler de TikTok. TikTok qui est en ce moment sous les foudres de plusieurs pays occidentaux. Son avenir est compromis et tu vas nous expliquer tout ça.
Et oui, TikTok est-il un espion chinois? Alors c'est difficile à dire, mais la menace suffit pour que plusieurs pays décident à la suite d'interdire l'application à leurs fonctionnaires. Aux États-Unis, un projet de loi est en ce moment voté au Congrès pour interdire purement et simplement l'application sur le sol américain. La France, de son côté, elle réfléchit à faire de même. Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, a prévu de rencontrer dans les prochains jours les dirigeants de TikTok. Alors, selon Jérôme Billois, associé en cybersécurité chez Wavestone, l'application, elle, représente deux menaces.
Il y a une menace sur la vie privée et une menace sur des informations confidentielles. On est sur une application de réseau social, somme toute assez classique, mais qui va quand même capter énormément d'informations. Qui vous êtes ? Où vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, avec qui vous communiquez. Et finalement, toutes ces informations sont des données à caractère personnel, c'est comme ça qu'on les appelle, et il y a un certain nombre de réglementations qui imposent qu'elles restent en Europe, qu'elles puissent être bien protégées. Et on voit que TikTok, à date, a pris quelques libertés avec ces réglementations. Ils ont déjà été condamnés une première fois par la CNIL, et on voit qu'ils ont été, entre guillemets, pris la main dans le sac avec des données qui partaient en Chine, avec certains de leurs collaborateurs qui accédaient à des données, ce qui n'amène pas à avoir confiance dans l'application aujourd'hui.
Et oui, la réponse de TikTok, c'est de jouer la carte de la protection des mineurs. L'application, elle va désormais avertir les jeunes au bout d'une heure d'utilisation. Mais cette annonce ne règle pas le problème de sécurité nationale évoqué par les Occidentaux.
Merci beaucoup. Donc, analyse de Léa Benaïm, qui est productrice de Tech & Co. Toujours donc Lucas Perraudin, toujours Enguerrand Renaud, Taï Chris et Julie Rago qui sont là pour commenter tout cela. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur TikTok, on a 7 minutes 30. Qui veut commencer? Peut-être bon. Taïg.
Non mais ce qui me fait simplement rigoler, c'est que les Occidentaux disent que TikTok, du coup, et sûrement c'est vrai, font de l'informe, quoi. Ils utilisent l'information. Mais bon, en Chine, les réseaux sociaux américains en Chine doivent faire pareil. Et c'est pour ça que
il n'y a pas beaucoup de réseaux sociaux américains.
Non, mais c'est pour ça que les Chinois ont bloqué. Ouais. C'est-à-dire que finalement, au final, chaque pays, les Chinois, ils ont leurs réseaux sociaux et ils interdisent les autres.
Oui, qui vivent un peu en autarcie.
Exactement. Sociale. Les Russes, ils ont viqué. Ils ont viqué, etc. Donc finalement, c'est ce qui me fait rire dans cette annonce, c'est que ils annoncent ça comme le grand méchant loup, mais alors qu'en réalité, tout le monde fait à peu près pareil et chacun essaye de récolter le maximum d'informations. Voilà. Donc, bon.
Ce qu'on est en train de vivre. Ah, vas-y.
Julie, après, on vous donnera la
Le problème avec TikTok, c'est que c'est surtout l'un des. Peut-être le réseau social le plus utilisé à l'heure actuelle. Là, ouais, encore ce matin, il y a eu un article sur le site de Tech & Co qui passe 14 heures par jour sur TikTok.
Bien sûr.
Enfin, c'est quand même énorme.
C'est un peu beaucoup.
Il n'a pas de parents, cet enfant.
Non, oui, il a pas de classe. Enfin,
juste pour rebondir là-dessus, je suis persuadé qu'il doit y avoir un lobbying incroyable des autres réseaux sociaux. Oui. Pour pousser justement le gouvernement américain.
C'est Zuckerberg qui avait commencé.
Voilà. Ça, c'est
alors, et la moyenne, c'est de 95 minutes par jour. Mmh. Donc, bon, on est loin des 14 heures, mais 95 minutes,
c'est la durée d'un film. Hein.
Et pour les 4-15 ans, c'est 75 minutes. Sachant que normalement, le réseau social TikTok, et comme tous les autres, sont interdits au moins de 13 ans. Donc,
Oui, on a bien compris. Donc.
En France, il y a 56 millions de comptes sociaux, ouais, social network. La moyenne, c'est 6 heures connectées par jour, dont la moitié, c'est à peu près 2h30 par jour par Français sur les réseaux sociaux. Donc ces moyennes-là, en fait,
partie.
Elles sont...
Vraiment, je m'en cache pas, mais c'est
plus pour
Snap,
je pense
Insta. Que c'est plus pour les jeunes que... Le vrai problème, c'est plus pour les jeunes que...
Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que TikTok va être obligé de mettre la clé sous la porte?
Là, on voit, c'est le même processus auquel on a assisté en 2020 contre Huawei.
Exactement.
Souvenez-vous de Huawei, qui était l'équipementier télécom, qui faisait à la fois des smartphones, qui était brièvement devenu numéro un mondial des smartphones.
Qui faisait d'excellents smartphones en plus.
Exactement, et voilà. Et ça faisait de l'ombre. Alors on lui a reproché d'espionner, effectivement, pour le compte de la Chine, ce qui n'a jamais été prouvé, donc on ne peut pas dire ni l'un ni l'autre, et on va pas faire de paranoïa. Résultat des courses, il a été éradiqué. Les Américains ont demandé à leurs alliés, les Canadiens, les Australiens, puis, souvenez-vous, les Anglais, les Français, l'Europe, d'éradiquer Huawei, ce qui a été fait. Là, on voit...
En tout cas, en smartphone, en B2B et en équipementier réseau, il est toujours un peu présent.
Dans les cœurs de réseau
Mais ils ont encore télécom. Un business. Ils ont encore un business.
Beaucoup de tours télécom.
Exactement. Ouais, ouais. Et là, on le voit, c'est le même processus sur TikTok. On avance les mêmes raisons. Alors on dit...
Sauf que, excuse-moi Enguerrand, je te coupe, mais TikTok est autrement plus populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jeunes adultes...
Huawei était assez peu connu du grand public, sauf les détenteurs de smartphones, mais effectivement, il y a un phénomène d'addiction. Alors, on reproche...
Huawei, ils étaient leaders sur l'infrastructure quand même. Hein.
Exactement.
Donc,
ils étaient numéro 1
sur...
C'était les leaders sur la 5G.
Exactement. Et on reproche aujourd'hui à TikTok de plonger les adolescents dans une véritable addiction parce que l'algorithme de recommandation qui lui est effectivement chinois puisqu'il est détenu et actionné par ByteDance et on dirait les Chinois essayent de crétiniser nos enfants. Premier reproche, bon, ça on ne sait pas. Deuxième, c'est sur les stockages des données. Alors les Américains ont dit les données des réseaux TikTok aux États-Unis resteront aux États-Unis. L'Europe, c'est pas encore très clair. TikTok a dit qu'il allait construire des data centers. Ce n'est pas encore tout à fait fait. Et donc éviter que les données soient stockées en Chine. Et ça, on le comprend tout à fait. Et puis il y a le troisième reproche qui est celui de l'espionnage, qui n'est pas encore ni prouvé. Et donc, avec ces trois arguments...
Surtout espionnage des gamins, hein, franchement.
Surtout espionnage
ça aurait été des boîtes industrielles.
Avec ces trois arguments, les États-Unis commencent à interdire, le Canada, l'Europe, le Danemark, la France.
Oui, c'est que le début. On a l'impression que ça flambe comme un peu partout.
Là, Lucas, j'en peux plus.
Non, t'as 2:30. T'as 2 minutes 30.
Ouais, mais bon, alors clairement, on est dans un cycle de propagande.
C'est ça.
On est dans un cycle 100%. De propagande. Il ne faut pas se mentir. C'est toujours pareil. La propagande, il y a un peu de vrai et il y a beaucoup de faux et on mélange tout ça et on a un narratif orienté. Deux choses. Pour l'espionnage, TikTok, comme Facebook, comme toutes les applications, ils vivent dans iOS et dans Android. Ils sont dans ces systèmes d'exploitation qui ont des barrières qui sont censées protéger le nombre d'informations collectées aux informations consenties. Donc soit TikTok il collecte les informations dont on est d'accord, donc on est d'accord et on les laisse. Ils utilisent de l'information dont on est d'accord qu'ils aient. Soit TikTok est plus malin que iOS, Android, et là on a un autre problème.
Là c'est pas possible.
Et il nous explique.
C'est-à-dire que là,
donc le narratif de l'espionnage, c'est soit on est en train de nous raconter que la sécurité Android, iOS ça marche pas, soit on est en train de nous raconter un peu n'importe quoi. Ils collectent de la donnée, c'est vrai. Peut-être qu'elle va en Chine, c'est vrai. Moi je vois pas comment elle peut pas aller en Chine parce que pour des raisons d'infrastructure.
Mais forcément, elle est obligée de passer par la Chine.
Ouais. Mais en tout cas c'est sûr qu'il y en a parce que on veut avoir des datas partout, etc. Donc ce narratif de l'espionnage, il est clairement orienté. Après le bien le mal on peut juger, mais en tout cas on est sur un narratif de propagande. On peut pas c'est la guerre froide.
Mais est-ce que derrière tout ça, derrière c'est les manettes, il y a Facebook, il y a Twitter, effectivement.
Il y a quand même plus le gouvernement américain. Il y a les problématiques avec la Russie, le soutien de la Chine. Comme par hasard, là on a un soutien de la Chine à la Russie et TikTok et Biden s'est voté aujourd'hui. Il y a pas vraiment de hasard. C'est de la géopolitique.
Et surtout, imaginez que TikTok continue de grandir et dans 10 ans arrive à tuer Facebook. je prends un truc extrême.
Oui, ça serait quand même une catastrophe.
Vous imaginez le drame pour les Américains.
Il y a du protectionnisme aussi, ouais.
C'est pas possible. Donc ils sont en train de tuer, d'essayer de tuer, comme tu dis, avec de la propagande. Et une fois qu'ils seront, si en tout cas ils arrivent à bloquer TikTok aux États-Unis, Facebook du jour au lendemain va sortir un copycat, comme ils ont toujours fait. Ils ont fait souvent des copycats. Par exemple, il y a eu l'application Viril.
Oui, ou même Snapchat. Snap, ouais. Le risque, c'est aussi qu'on ait des jeunes qui se mettent en VPN pour continuer à faire du TikTok. Et qu'on ait un TikTok qui soit un peu plus un dark web.
Ouais, ouais, ouais. Et là où ça commence à dégénérer.
Faut pas imaginer que, aujourd'hui on a de l'IPTV, quand les gens devraient prendre des abonnements, tout ça, ça marche très bien, ce genre de choses, les VPN, donc, c'est vachement compliqué, comment.
Enfin, le problème principal, c'est l'addiction auprès des jeunes, surtout de TikTok. Ça, c'est le problème principal. On le voit avec des heures et des heures de consommation.
Oui, mais ils ont sorti les autres apps, elles ont le même flow et les mêmes algorithmes. Je veux dire, sur Instagram ou sur Snap, tu as la même vidéos verticales qui sont exactement
les mêmes. Tout est en train de se normaliser, en fait. On sort du social graph, Facebook, Meta, ils sortent des amis pour aller vers les contenus d'entertainment qui sont les plus convaincants, la même chose que TikTok.
Non, mais c'est extrêmement géopolitique. Hein.
Ouais. Messieurs, il aurait fallu une heure supplémentaire. Mais là, c'est pas possible. Là, on est un peu comme, tu sais, l'appli dans iOS. Il faut qu'on l'arrête, en quelque sorte. Bientôt 22h. C'était passionnant, ce débrief. Et on poursuivra toutes ces discussions, bien évidemment, très très vite. Merci à Julie Rago, donc journaliste à Tech & Co, Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital, Enguerrand Renault, consultant chez Image 7, et Taï Chris de On Off. Très belle soirée. Ce Tech & Co est terminé. Les replays, les podcasts qui vous attendent. Si vous avez raté un petit bout de l'émission, je vous conseille de la réécouter. C'était top ce soir. Et on se retrouvera lundi, bien sûr, dès 20h. À très vite.